6h57 sur Europe 1, très bon réveil. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve demain dès 5h du matin, on se réveille ensemble. Et c'est l'heure de retrouver Mathieu Béliard pour le 7-9, bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Europe 1, ça marche mieux si j'allume mon micro, c'est vrai, sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Et finalement, c'est une question de calendrier qui se pose ce matin, mardi 17 novembre 2020, 6 semaines avant Noël, tellement d'incertitudes. D'abord, est-ce qu'on pourra se déplacer d'une région à l'autre? Qu'avez-vous envisagé pour Noël, tiens? À combien pourrons-nous nous rassembler? Le PDG de la SNCF est sur Europe 1 ce matin, Jean-Pierre Farandou, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk, c'est à 8h15. Mais avant même le train, les bars et restaurants voient l'espoir d'une réouverture avant la fin de l'année s'envoler. C'est à la une du journal à suivre.
Laissez-nous travailler!
Des commerçants qui manifestaient à Lyon hier. Noël, c'est aussi la question des courses avec des commerces qui s'organisent pour rouvrir autour du 1er décembre et qui prient pour un allègement du confinement. Tiens, justement, eux, ils prient aussi. Les catholiques mobilisés pour la messe en public. Rendez-nous la messe, ce collectif que vous entendrez ce matin. Les représentants du culte reçus hier. Pas d'aménagement, pas d'allègement. Je reçois ce matin le père Hugues de Voilemont. C'est le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Comment imagine-t-il des messes en public dans un pays confiné? On va rediscuter autour du 1er décembre. Comment est-ce qu'il se projette sur la période de Noël? Le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Et je reprends. Quand est-ce qu'on part en vacances? Quand est-ce qu'on pourra aller au restaurant, faire ses courses de Noël? Quand est-ce qu'on pourra aller à la messe? Et puis enfin, ce matin, quand est-ce qu'on pourra se faire vacciner? C'est aussi ça le calendrier pour espérer voir la sortie de crise, le bout du tunnel. On va poser une question ce matin. Les laboratoires français sont-ils à la traîne? Vous avez entendu BioNTech et Pfizer, vous avez entendu Moderna hier. On va poser la question des laboratoires français ce matin sur Europe 1, 6h59. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo. Bonjour mon cher Laurent.
Ouais, coucou Mathieu, bonjour à tous. Nous allons vivre une journée, ma foi, assez agréable dans l'ensemble pour une journée d'automne, avec quand même pas mal de nuages ce matin sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Vallée de la Loire, la région parisienne. Des nuages qui vont céder la place à quelques éclaircies. Les éclaircies sont, dans ces contrées sont quand même assez timides, hein, notamment sur Paris. Poitou-Charentes-Centre maintenant, Lorraine-Alsace, tout le sud-ouest, si vous habitez la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen, la Bourgogne, là les éclaircies seront beaucoup plus franche, on peut dire même qu'il fera beau dans ces régions en deuxième partie de journée. Et la douceur sera là sur les régions du sud, entre 17 et 20 degrés. Si l'on regarde les villes, belle journée à Lyon, Marseille, Grenoble et Bayonne. Éclaircies plus timides à Paris, Nancy, Lille, Sedan et Reims, pour ne citer que ces villes. Bon, dans l'ensemble, si l'on fait le bilan, ce ne sera pas trop mal. Allez.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Si on nous fixait vraiment une date, on nous dit, allez, on leur laisse ouvrir à telle date au 15 janvier. Ok, mais là, on ne sait pas. On se sent vraiment laissé pour compte.
Une incertitude insupportable pour les restaurateurs. Quand pourront-ils rouvrir? Sûrement pas au 1er décembre et sans doute pas avant l'année prochaine. Information Europe 1, dès le début de ce journal. Un nouveau vaccin efficace à près de 95%, coup de tonnerre. Et vague d'espoir avec l'annonce du labo américain Moderna. Nous vous dirons où on vaccinera en premier et comment ça se passera en France. Moins de voitures sur les routes à cause du confinement, forcément moins d'accidents. Et pourtant, nos primes d'assurance vont augmenter l'an prochain. Injuste, disent certains conducteurs.
C'est pas 50 centimes, hein. C'est quand même plusieurs euros, voire même 5-6 euros par mois. Donc référence au confinement de cette année 2020, je trouve ça honteux en fait.
Dans ce journal, nous irons aux assises de Haute-Saône où le procès de Jonathan Daval s'est ouvert hier. Et puis un peu de douceur dans ce monde de brut. Nous ne sommes qu'à la mi-novembre et pourtant vous êtes déjà nombreux à décorer vos salons ambiance Noël.
Juste après ce journal, on va mesurer l'impact de l'intervention hors norme de l'État en 2020. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. La relance à l'échelle européenne dans le regard international de Vincent Hervouet. La Hongrie et la Pologne qui bloquent le plan de relance adopté en juillet. Ils s'entretiennent avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Les acteurs du sport doivent apprendre à parler d'une même voix. L'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vécu ces ambiances de salles de resto et il va sans doute falloir s'en passer encore pendant de nombreuses semaines si les petits commerces ont un espoir de rouvrir au 1er décembre. Pour les restaurateurs, ce sera rideau fermé.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les a reçus hier et selon vos informations, Carole Ferry, ils ne travailleront pas pour les fêtes de fin d'année.
Alors, selon les représentants du secteur, en tout cas, c'est plié. Il n'y aura pas de réouverture avant au moins la mi-janvier. Bercy, de son côté, refuse de confirmer et assure qu'aucune date n'est encore fixée. Une chose est sûre, il y a beaucoup de négociations autour des conditions de cette fermeture. Est-ce que le gouvernement est prêt à renforcer les aides si les bars et restaurants sont les seuls à rester fermés? Une exception vécue comme une injustice par Marie-Pierre Bouvier. Elle tient un restaurant dans la Drôme la nuit. Elle travaille comme aide à domicile. La journée, elle livre quelques repas aux entreprises du coin. Ce qu'elle souhaiterait surtout, c'est un calendrier.
Tous les 15 jours, on attend les nouvelles du gouvernement et chaque fois, on nous dit, allez, bim, voilà, c'est reculé, c'est repoussé, quoi. On va faire une course en grande surface, c'est blindé de monde et nous, on nous oblige à fermer, quoi, je veux dire. Et si on nous fixait vraiment une date, voilà, on nous dit, bon, allez, on leur laisse ouvrir à telle date au 15 janvier. Ok, mais là, on ne sait pas. On se sent vraiment laissé pour compte.
Une nouvelle réunion est prévue en fin de semaine à Bercy. Cafetiers et restaurateurs espèrent être davantage fixés à ce moment-là.
Merci Carole Ferry. Les patrons de bars et de restaurants qui envisagent un recours en justice pour dénoncer leur fermeture.
Quant aux fidèles, ils devraient pouvoir assister à la messe dans 2 semaines encore que. Le gouvernement accepte une reprise des cérémonies religieuses en public à partir du 1er décembre, mais sous condition l'évolution favorable des indicateurs de l'épidémie et le respect d'un nouveau protocole sanitaire.
En tout cas, alors que justement les indicateurs sont plutôt au vert, on a appris hier que le vaccin Moderna protégeait à près de 95%. La semaine dernière, un autre labo américain, Pfizer, revendiquait 90% d'efficacité et son concurrent russe 92%. Ça fait déjà donc 3 vaccins qui pourraient arriver sur le marché.
Bonjour Victor Dolande. D'abord, ce que vous nous expliquez ce matin, Victor, c'est que les Américains seront vaccinés en premier.
Oui, Pfizer et BioNTech vont commercialiser 50 millions de doses avant la fin de l'année, des vaccins réservés aux soignants américains et aux personnes vulnérables. De son côté, Moderna se dit capable de produire 20 millions de doses d'ici la fin 2020, là aussi uniquement pour le marché outre-Atlantique, et ce n'est qu'à partir de janvier 2021 que les autres pays seront servis. En France, le gouvernement a déjà sécurisé 90 millions de doses, sachant qu'il en faut 2 par personne vaccinée. 45 millions de Français pourraient recevoir la double injection l'année prochaine, avec un ordre de priorité qu'explique Morgan Bomsel, spécialiste des vaccins au CNRS.
Il semblerait qu'on veuille commencer par vacciner les personnes à risque, que ce soit les personnes âgées ou les personnes avec des comorbidités, puis le personnel soignant.
Victor, vous nous dites que 45 millions de Français pourraient donc être vaccinés l'année prochaine. Ça suppose une énorme opération.
Si vous prenez les 23 millions de Français vulnérables et les 2,8 millions de professionnels de la santé, il faudrait donc déjà plus de 51 millions de doses à raison de 2 par personne pour vacciner tout ce public. Une campagne gigantesque qui permettrait de protéger les personnes les plus fragiles et de faire un grand pas vers l'immunité collective.
Victor Dolande.
Et je voudrais vous faire écouter une voix ce matin parce qu'il y a un débat de fond qu'il ne faut pas oublier. Encore faut-il que les Français acceptent cette vaccination. Selon un récent sondage portant sur 15 pays différents, nous arrivons bon dernier. 54% des Français seulement souhaitent se faire vacciner. Écoutez ce que dit Marie-Paul Kieny. Il s'agit de retrouver la confiance. Elle était l'invitée hier de Patrick Cohen. Elle est présidente du comité scientifique vaccin Covid-19.
Il y a toujours un risque. Les vaccins qu'on voit et qui progressent, d'après ce qu'on a pu voir dans les premiers essais cliniques chez l'homme, sont ce qu'on appelle réactogènes. Ça veut dire que, comme d'autres vaccins, ils induisent une douleur au point d'injection, un gonflement, des maux de tête, parfois des nausées. Alors ces effets secondaires sont en général de courte durée, 24-48 heures maximum. On ne connaît pas encore, effectivement, parce que pas suffisamment de personnes ont été vaccinées, s'ils pourraient induire chez une proportion très petite de personnes vaccinées, des effets secondaires plus graves. Il faudra être transparent sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pour que les gens puissent comprendre et analyser par eux-mêmes les risques, mais aussi les bénéfices que pourrait avoir cette vaccination pour eux en tant que personnes et aussi pour leur entourage.
Marie-Paul Kieny, la présidente du comité scientifique vaccin Covid-19, hier sur Europe 1. On reviendra très longuement, évidemment, sur cette thématique du vaccin dans le journal de 8h tout à l'heure, notamment cette question, les laboratoires français sont-ils à la traîne? 7h07 sur Europe 1. L'UFC Que Choisir dénonce l'enfumage des assureurs. Les mots sont forts, enfumage, et pourtant, c'est bien l'expression qu'emploie l'association de consommateurs.
Oui, il faut dire que les assureurs ont économisé plus de 2 milliards d'euros grâce au premier confinement, moins de voitures sur les routes, donc moins d'accidents. Et pourtant, Élise Dangean, la plupart vont augmenter leurs tarifs l'an prochain.
Oui, plus 1,5 à 2 % en moyenne. Alors des hausses de prix, il y en a quasi chaque année, mais beaucoup d'assurés s'attendaient cette fois à un geste. Car il faut savoir que près de 70 % des cotisations que l'on paye sont redistribuées pour indemniser les sinistres, moins nombreux en cette année marquée par deux confinements. Et pourtant, sur les 12 principales compagnies françaises, elles ne sont que deux à avoir annoncé un gel des tarifs pour 2021. Celle d'Eva n'en fait pas partie. Elle a reçu l'échéancier de son assurance voiture il y a quelques jours et elle est en colère.
C'est pas 50 centimes, hein. C'est quand même plusieurs euros, voire même 5-6 euros par mois. Donc référence au confinement de cette année 2020, je trouve ça honteux en fait.
Mais il y a des recours, dit Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, qui a mis en place un courrier type pour les assurés qui souhaitent faire valoir leurs droits.
Le code des assurances est très clair, il dit que dès lors que les consommateurs font face à une diminution du niveau de leur risque au cours de leur contrat, eh bien ils peuvent avoir droit à une diminution du montant de leur prime.
Pour que la règle devienne généralité, l'UFC Que Choisir en appelle au gouvernement, objectif qu'il rende obligatoire la rétrocession du trop perçu.
Emmanuel Macron grimpe dans les sondages pendant que Jean Castex descend.
Enquête Odoxa publiée ce matin dans la presse régionale. L'écart se creuse entre le président et son premier ministre. 43% d'opinion favorable pour l'un, 35% pour l'autre. Un jeu de vases communicants alors que Jean Castex semble un peu dépassé par les événements. Ce que vous nous dites, Adrien Beck, c'est qu'il tente de reprendre la main vis-à-vis de ses ministres.
Des ministres de poids dans leur couloir et le premier d'entre eux au bord de la piste. Cette image, Jean Castex veut la casser, quitte à faire la police avec son gouvernement. Hier, Bruno Le Maire s'est prononcé pour une réouverture des commerces avant le 1er décembre. Matignon a rapidement indiqué que ce n'était pas à l'ordre du jour. Idem avec Gérald Darmanin. Le premier ministre lui a fait savoir la semaine dernière qu'il fallait davantage communiquer sur le contrôle du confinement. C'est désormais chose faite, façon de défendre sa ligne en personne. « Je préfère fermer des restaurants qu'ouvrir des morgues », dit le Premier ministre en privé, et d'affirmer son autorité sur un gouvernement parfois remuant. Il est remonté, il en a ras-le-bol des gros ministres qui jouent des coudes, confie un conseiller, qui ajoute « c'est le syndrome Reine des Neiges, il est en train de se libérer ». Une tentative de mue pour un Jean Castex loin d'avoir l'expérience et le poids politique de certains de ses ministres.
Direction maintenant les assises de Haute-Saône, à Vesoul, où Jonathan Daval est jugé pour le meurtre de sa femme Alexia.
Oui, première journée marquée par les passes d'armes entre avocats sur la situation catastrophique du couple avant le meurtre et aussi par le moment difficile de la projection d'image de la victime, une audience que nous raconte Arthur Elbaché.
Il est prostré dans le box. Jonathan Daval regarde le sol, tête dans les épaules. Il ne veut pas voir les images sur les grands écrans de la salle d'audience, les images du cadavre d'Alexia, tuméfié et à moitié calciné, des images insoutenables pour la sœur de la victime, Stéphanie.
On notera l'attitude de l'accusé pendant ces horreurs qui ont été diffusées, qui n'a pas réussi à faire face. Et au fur et à mesure, il a littéralement disparu dans son box. On ne le voyait plus, on ne voyait même plus ses cheveux. C'est pour vous dire que même lui n'arrive pas à faire face à l'horreur qu'il a provoquée.
Au programme de ce mardi, les auditions des membres de la famille d'Alexia, dont sa mère Isabelle.
Dans nos sociétés, on divorce quand ça ne va pas. Si ça n'allait pas, il n'avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère avec sa mère. Mais on ne fait pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous. Voilà, c'est la raison que je veux.
J'ai une question à poser à Jonathan, insiste la mère d'Alexia. Pourquoi toute cette horreur ? Vesoul, Arthur Elbaché, Europe 1.
Vous êtes peut-être impatient à la maison, vos enfants en tout cas, d'installer le sapin au milieu du salon. Et bien, ça tombe bien, le gouvernement s'apprête à publier un décret pour autoriser leur vente dans les tout prochains jours.
Et oui, installer une ambiance de Noël dès maintenant. Regarder des films de Noël à la télé, rien de tel pour tenter d'oublier cette période assez morose. Marion Gauthier n'a pas eu trop de mal à trouver ce qui devance l'appel des fêtes.
Je m'apprêtais à décorer le sapin. Je vous montre, je retourne la caméra.
Et le salon brestois d'Iris apparaît, illuminé seulement par de multiples guirlandes. Un mur est recouvert de cartes de Noël, d'étoiles, de flocons. Un feu de cheminée sans fumée ni crépitement sur l'écran de télé.
Je me dis que dans tous les cas, ce sera Noël chez moi.
Les boules de Noël sont même accrochées deux semaines plus tôt que d'habitude pour se convaincre que la période est normale.
En plus, avec l'actualité, c'est encore plus important de se dire qu'on arrive quand même à conserver les traditions. Et l'idée d'avoir cette décoration et un cocon blotti dans le canapé sous un plaid. Finalement, on se dit, bon, pas sortir, ça me dérange pas.
À des kilomètres de là, près de Perpignan, Hélène trompe la morosité avec ses films de Noël.
Moi, je suis très accro à l'info, mais il y a des moments, il faut que j'éteigne le poste parce que véritablement, ça devient anxiogène. Dès les premières minutes, je sais ce qui va se passer. Mais c'est bien, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien du tout. Exactement l'opposé de l'actualité actuellement. Ça permet d'échapper au réel, quoi. Ça va nous aider à tenir, ça c'est sûr.
Chez elle, pas encore de sapin ni de décoration. Il faut faire durer le plaisir pour affronter la suite.
Mais bien sûr.
Le Père Noël est déjà là avec Mario Gauthier.
On a démarré ce journal avec une ambiance de café-restaurant, on termine avec l'ambiance de Noël. Voilà des sons qui nous rassurent, si je puis dire, Hélène Zélani. Ça fait du bien aussi ce matin. Merci Hélène, c'était le journal de 7h. Il est 7h12 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Mardi 17 novembre et déjà Noël dans toutes les têtes, donc les commerces qui espèrent pouvoir rouvrir pour l'avant début décembre. Le gouvernement n'autorise toujours pas la célébration de messe en public. On renvoie là aussi au 1er décembre, éventuellement avec de nouveaux protocoles sanitaires. L'Église répond sur Europe 1 ce matin. Le père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
4 budgets de crise, des mesures d'aide et de relance qui se succèdent. La crise du Covid a donné lieu à une intervention hors norme de l'État. Est-ce que cette intervention a été pertinente ?
Eh bien, c'est ce qu'ont voulu savoir des chercheurs en économie de l'Institut d'études de l'Institut des politique publique, pardon, et du CEPREMAP, un autre organisme de recherche. Et leur démarche, vous voyez, est très intéressante pour deux raisons. D'abord parce que ces chercheurs ont travaillé à chaud pour évaluer la pertinence des politiques publiques mises en œuvre depuis le printemps. Or, souvent, cette analyse manque, notamment aux parlementaires qui s'apprêtent à voter un budget, par exemple le budget 2021 en ce moment, contenant des dizaines de milliards d'euros de dépenses de relance. Il faut être sûr que cet argent, finalement, est bien dépensé. Et puis, c'est très intéressant parce que des mesures d'aide et de relance ont été beaucoup critiquées, notamment à gauche, qui les a jugé pas assez social.
Alors quel est le verdict ?
Eh bien, il est beaucoup plus nuancé que bien des critiques. D'abord parce que ces experts font le constat que le choc de la crise a été plus rude pour les ménages les plus modestes, mais premièrement parce qu'en moyenne ils travaillent plus que les autres dans des secteurs très touchés comme par la crise, comme la restauration. Deuxièmement parce qu'ils occupent aussi souvent des postes où il n'est pas possible de télétravailler. Et puis trois parce qu'ils sont moins souvent que les autres en CDI. Mais les mesures gouvernementales, notamment les deux aides exceptionnelles aux bénéficiaires d'aide sociale et l'allocation de rentrée scolaire, ont été très bien ciblés sur ceux qui en avaient le plus besoin. Ces aides ont fait gagner 5% de revenus aux 5% les plus modestes. Les aides aux indépendants également ont davantage bénéficié aux plus modestes. Et en résumé, le plan du gouvernement a été plutôt redistributif et plutôt social. Voilà qui bat en brèche bien des critiques.
Mais quid des classes moyennes alors qui ont aussi été durement touchées par la crise ?
Alors, par rapport aux autres pays, la France est sans doute celui qui a le mieux aidé les classes moyennes grâce aux 20 milliards d'euros du chômage partiel, un chiffre. Pour les ménages se situant au milieu de l'échelle des revenus, la perte de revenus à cause de la crise a été limitée à 0,4% de mars à juillet. Peu de pays peuvent se prévaloir d'un tel bilan. Comme le résume l'un des auteurs de l'étude, le chômage partiel a bien protégé les actifs qui avaient un emploi qui était occupé. Là où le bas blesse, en revanche, c'est pour les personnes en contrat court et pour les jeunes qui ont un mal fou à trouver du travail. C'est vers eux que doivent porter les efforts des mois à venir. Mais à l'heure du premier bilan, vous le voyez, le plan de relance français ne mérite clairement pas toutes les critiques dont il a été l'objet.
Merci Nicolas Barré, il est 7h18.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous ? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
La Hongrie et la Pologne bloquent le plan de relance européen adopté en juillet.
Oui, après-demain, un Conseil européen en vidéo. Il ne sera pas consacré à la mise en place du plan de relance pharaonique historique pour faire face aux conséquences du coronavirus, mais au blocage des Hongrois et des Polonais. Deux grains de sable dans la machinerie financière qui doit mobiliser 750 milliards d'euros en plus du budget pluriannuel de 1074 milliards. Les Hongrois et les Polonais ont dit niette aux deux. Ils ont dégainé l'arme fatale, le veto. Faites les comptes, c'est un hold-up à 1824 milliards d'euros, le plus cher des bras d'honneur. Ça s'est passé hier à la réunion des ambassadeurs qui préparaient le Conseil.
Les deux pays refusent que les fonds communautaires dépendent du respect de l'état de droit.
Alors c'est pas si facile de définir l'état de droit avec des critères objectifs. En juillet, quand le paquet budget et plan de relance a été adopté, un lien a été fait, mais en termes vagues, sujet à toutes les interprétations. La Hongrie sait qu'elle est dans le collimateur, la Pologne aussi. Le Parlement européen veut leur scalp, il veut leur couper les vivres pour faire payer à Varsovie la mise à la retraite des juges ou l'interdiction de l'avortement, et à Budapest les lois anti-ONG, le contrôle de l'audiovisuel et des universités. Viktor Orban a rugi hier. On n'a pas fait l'Union européenne pour avoir une deuxième Union soviétique. Il a résisté aux appels d'Angela Merkel hier, aux supplications des pays latins. La Pologne proteste sur le même ton. Sa souveraineté n'est pas à vendre. En face, le Parlement européen refuse de céder. Or, le budget a besoin de l'accord unanime des 27, donc de la Pologne et de la Hongrie, mais aussi du vote des eurodéputés. Bref, le système est bloqué.
Oui, bloqué. Mais la Pologne et la Hongrie auront besoin des fonds européens.
Ah, surtout qu'ils sont tous les deux dévastés par la crise. Mais ils ne bluffent pas, ils défendent leur ligne rouge. S'ils acceptent la conditionnalité, ils savent que tôt ou tard, ils devront rentrer dans le rang. Et à deux, ils se protègent, impossible de les virer. Mais vouloir à tout prix les saquer, c'est un peu comme vouloir repeindre les transats sur le pont du Titanic. L'Europe a une urgence, un ennemi, un seul, le coronavirus et la crise qu'il provoque.
Merci Vincent Hervouet. Et alors que l'on a parlé de la relance en France, de la relance et de la solidarité européenne, vous avez raison, le coronavirus, seule priorité. Le président Emmanuel Macron a accordé une interview à la revue Le Grand Continent sur sa vision de la géopolitique et des défis à relever. Qui aura un vaccin et dans quel ordre de priorité? Cet extrait de l'entretien à ce sujet, le président souligne les enjeux de solidarité, justement, et de coopération internationale.
On a besoin de réinventer les formes d'une coopération internationale. On ne battra pas l'épidémie et ce virus si on ne coopère pas. Quand bien même certains découvriraient un vaccin, s'il n'est pas diffusé à la planète entière, ça veut dire qu'il reviendra dans certaines zones. Et donc, pour moi, le premier cap dans la vie internationale, c'est de chercher les voies d'une coopération utile.
Et on va reparler de ce vaccin longuement, évidemment, dans le journal de 8h tout à l'heure. À 7h30, vous entendrez le patron de l'OMS pour qui ce vaccin n'est pas forcément la panacée non plus. 7h22, à tout de suite pour l'édito sport.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h25 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le président Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui en visioconférence des acteurs du sport français pour parler des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Pour vous, c'est un progrès, même si c'est tardif. Le président doit écouter et donner des réponses concrètes et les acteurs du sport doivent aussi apprendre à parler d'une même voix.
Ouais, enfin, le sport n'est plus un gros mot au sommet de l'État. Hein. On aurait pu le croire, tant le président de la République et le Premier ministre ont soigneusement évité de prononcer ce mot au gré de leurs allocutions télévisées depuis le début de cette crise. Le sport devient donc aujourd'hui un sujet de discussion, il était temps. Évidemment que le ministère des Sports n'a pas attendu cette rencontre virtuelle pour travailler et chercher des solutions. Mais d'abord, en période de crise, on a besoin de symboles. Et voir le président lui-même écouter les doléances d'un secteur aux abois, ça compte, même si ça arrive un peu tard. Le sport français se sent enfin un peu considéré. Et puis ensuite, c'est le président et le ministère de l'économie qui ont les clés pour éviter au sport de sombrer. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron donne des réponses concrètes et chiffrées aux inquiétudes des acteurs du sport pour que les fédérations et les clubs puissent travailler en conséquence et préparer l'avenir en se fiant à des données concrètes. Quand peut-on avoir l'espoir de revoir du public? Quel sera le montant des aides? Quand le sport amateur pourra-t-il reprendre une activité normale? C'est maintenant qu'on a besoin de réponses et maintenant que se joue la survie du sport. On va juger sur pièce.
Il y a le président et de l'autre côté, il y a les acteurs du sport qui doivent parler d'une voix commune.
Et ça n'a pas du tout été le cas jusqu'à présent. Hein. On peut critiquer le silence de l'État sur le sport, c'est sûr, mais on peut aussi critiquer la cacophonie dans le monde du sport. Chacun y est allé de sa tribune pour demander de l'aide sans jamais proposer de vraies solutions. Et on a vu des batailles rangées dans beaucoup de fédérations avec la défense d'intérêts partisans plutôt que l'intérêt commun. Les acteurs du sport peuvent faire leur introspection également en abordant cette réunion. C'est ensemble, avec une voix et une vision commune, que le sport aura plus de poids pour influencer les décisions de l'Élysée et de Bercy. C'est ensemble que le sport peut rappeler son importance pour l'image de la France, pour le lien social et pour la santé.
Oui, accessoirement.
Accessoirement, ça peut servir en ce moment. Cette vision conférence n'est qu'un symbole, mais elle peut être le symbole d'une nouvelle façon d'aborder le sport dans le pays.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport à écouter et à partager. Vous le retrouvez sur europe1.fr, 7h27. Stéphane Bern est avec nous, il est l'heure de parler d'histoire. Bonjour mon cher Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sophie Marceau. Alors laissez-moi faire un tour d'horizon des expressions dédiées à la beauté. On dit être beau comme un cœur, beau comme un camion, mais aussi beau comme le prince de Galles. Bon, je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec le prince Charles et ses grandes oreilles. On parle dans cette expression du fils de la reine Victoria, Édouard VII, qui fut longtemps, vous le savez, un modèle d'élégance, même s'il fréquentait le Chabanais, qui était une maison de tolérance, où il est entré dans la légende en utilisant un fauteuil à bascule particulier. Mais enfin bref, revenons plutôt à Sophie Marceau.
Oui, alors s'il vous plaît. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit beau comme un camion?
Ben, en fait, je faisais des circonlocutions, mon cher Mathieu, parce que personne n'en sait strictement rien. Par contre, voyez-vous l'expression « à traverser l'Atlantique ». Pour parler d'une belle personne, en Argentine, on dit « es un camión », c'est un camion. En Espagne, « es un tren », c'est un train, être beau comme un train. Bon, je ne sais pas ce que tous ces moyens de locomotion viennent faire dans cette valse des compliments, d'autant que pour souligner la beauté d'une dame en France, on dit aussi « c'est un avion de chasse ». La beauté est parfois source de méfiance. Une belle de nuit en argot est une prostituée qui travaille de nuit, et une belle de jour est une prostituée qui travaille de jour. Merci Mathieu, bravo. Terminons par un compliment de Paul Morand. Elle était belle comme la femme d'un autre, il s'y connaissait en la matière. Quoi qu'il en soit, bel anniversaire à notre sublime Sophie Marceau. Elle fait partie de notre patrimoine national et en plus... Elle, il n'y a pas besoin de la rénover.
Oh Stéphane, belle comme... non, quand même, belle comme la femme d'un autre. Celle-là, je la garde. Celle-là, oui, je la garde oui, précieusement. Bon, elle est très belle. Et Stéphane, on vous retrouve à 16h, historiquement vôtre.
Oui, absolument. Appelez-moi maître. On réunit aujourd'hui trois grands avocats. Le ténor du barreau qui a défendu le maréchal Ney, l'écrivain Chateaubriand et le prince Louis-Napoléon Bonaparte, c'est Pierre-Antoine Berryer. Mais aussi Gisèle Halimi, qui s'est battue toute sa vie pour la cause des femmes. Et un maître un peu différent, l'avocat de la cause des Jedi, maître Yoda. Bref, on vous raconte l'histoire en robe, sans toujours se la raconter avec Mathieu Noël tout à l'heure, 16h-18h sur Europe 1.
À tout à l'heure 16h. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et en météo, c'est plus banal. On dira beau comme un ciel bleu, et beau comme un ciel bleu sur le Poitou-Charentes, sur le centre, la Lorraine, l'Alsace, le sud-ouest, la région Rhône-Alpes, le bassin méditerranéen et la Bourgogne. Très vite, après les brouillards, vous aurez et vous allez bénéficier d'une belle journée au ciel dégagé. Alors que près de la Manche, sur la région parisienne, la vallée de la Loire, oh, ce sera quand même très nuageux et humide, et les éclaircies seront parcimonieuses. Les températures, oula, beau comme un thermomètre. Tiens, 13 degrés à Sedan, 14 à Besançon, 15 à Paris, 17 à Brive et 20 à Narbonne. C'est très très doux pour la saison.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
On nous parle maintenant éventuellement peut-être du 1er décembre, si ou si et si et si. Il n'y a aucun engagement, aucune date précise.
La déception des catholiques à Nantes qui réclament le retour de la messe malgré le confinement, mais pas d'office avant le 1er décembre, a tranché le gouvernement. L'Organisation mondiale de la santé appelle à la prudence et à la retenue après l'annonce de Moderna. Le laboratoire américain affirme que son vaccin anti-Covid est efficace à près de 95%. Pourra-t-on continuer à filmer et à dénoncer des scènes de violence policière? L'un des articles du projet de loi Sécurité globale examiné aujourd'hui à l'Assemblée fait polémique. 100 € de prime pour les jeunes profs. Le gouvernement veut rendre la profession plus attractive, mais c'est insuffisant, selon les principaux concernés. Et puis des anecdotes sur sa vie politique et privée. La sortie en France aujourd'hui des mémoires de Barack Obama.
Juste après ce journal, pas de messe avec du public, mais cet espoir qui demeure pour le 1er décembre. Le secrétaire général de la Conférence des évêques de France, le père Hugues de Voilemont, invité du tête-à-tête Europe Matin. Bras de fer entre Emmanuel Macron et les médias anglo-saxons sur la question des caricatures et les questions de laïcité. L'édito politique Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les catholiques voulaient qu'on leur rende la messe, mais ils vont devoir attendre encore un peu. Hier, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur recevaient les représentants des différents cultes et le gouvernement a été clair, les cérémonies en public restent interdites jusqu'au 1er décembre au moins. Et même là, tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Pas de messe pour les deux prochains dimanches donc, mais les catholiques de Nantes n'en démordent pas et appellent même à une plus forte mobilisation. François Coulon.
L'espérance est pourtant pour lui une vertu cardinale, mais hier soir, Marc Bilic de la paroisse d'Oudon, l'un des pionniers en France du mouvement Rendez-nous la messe, a sérieusement accusé le coup.
On nous parle maintenant éventuellement peut-être du 1er décembre, si ou si et si et si, il n'y a aucun engagement, aucune date précise. Je suis très très déçu. Et nous appelons d'ores et déjà nos amis à se rassembler dimanche prochain à Nantes et dans toutes les villes de France.
Dimanche dernier, ils étaient 500 massés place Gralin à Nantes sous une pluie battante, deuxième manif consécutive, parmi eux Béatrice, mère de 6 enfants.
On est extrêmement déçus. On pensait que dès dimanche prochain, on pourrait retourner à la messe. Moi, ce que j'ai vu ce week-end, dans une boutique que je n'hésiterai pas, il y avait 30 personnes à la caisse. On n'est pas comme ça à la messe. Il n'y a pas de cluster venant des églises. On a le droit d'être des centaines dans les métros, etc. Et on ne peut pas les pratiquer. On est dans l'incompréhension devant autant d'incohérences, en fait.
Le combat pour la messe va donc se poursuivre sur les pavés avec un objectif majeur, le premier dimanche de l'Avent, fêté le 29 novembre, à 4 semaines de Noël. Oudon, François Coulon, Europe 1.
Une semaine après Pfizer et BioNTech, c'est la société américaine Moderna qui a annoncé hier que son candidat vaccin était efficace à 94,5%. Il sera disponible en Europe dès janvier prochain.
Et réaction que je voulais vous faire entendre du patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a pris la parole et malgré l'espoir, écoutez-le, il se veut très prudent. Nous savions qu'un vaccin serait essentiel pour maîtriser la pandémie, mais il est important de souligner qu'un vaccin complétera les autres outils dont nous disposons et ne les remplacera pas. Un vaccin seul ne mettrait pas fin à la pandémie. Nous avons encore un long chemin à parcourir, dit-il.
Alors, où en est-on côté français? Comment avancent nos laboratoires? Quelles sont les stratégies de vaccination? Et qui vacciner en priorité? Dossier complet à retrouver dans le journal de 8h. Les débats s'annoncent animés à l'Assemblée aujourd'hui avec l'examen de la proposition de loi sécurité globale qui vise à renforcer les moyens des forces de l'ordre. L'article 24 du texte prévoit de punir la diffusion malveillante d'images du visage d'un policier ou d'un gendarme en opération. Il a provoqué une levée de boucliers. La défenseure des droits, Claire Hédon, se dit très préoccupée.
Il y a d'une part un risque d'obstacle au contrôle des forces de sécurité, et puis d'autre part, il ne faudrait pas que la liberté de la presse et le droit d'information soient entravés. L'information du public et la publication d'images relatives aux interventions de police sont légitimes et elles sont nécessaires d'ailleurs au bon fonctionnement de notre démocratie. Et d'autre part, la liberté d'information, elle est censée primer sur le droit au respect de la vie privée d'un policier ou d'un gendarme en activité. Et aussi, tout agent public, il est censé être identifiable et tout policier ou gendarme doit pouvoir exercer ses fonctions en uniforme et se conformer aux règles relatives à son identification. Donc tout ça nous fait craindre une interprétation qui pourrait être faite de cet article 24.
Claire Hédon, défenseur des droits, avec Gladys Laffitte. Le camp de migrants de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, en cours d'évacuation. L'opération a débuté au petit jour. Plus de 2500 personnes vivaient entassées depuis plusieurs mois sous le pont de l'autoroute A1. La station Porte de Paris-Saint-Denis de la ligne 13 est fermée jusqu'à midi.
Une prime de 100 euros pour les professeurs en début de carrière. Annonce du ministre de l'Éducation nationale hier pour revaloriser le métier.
Et le rendre plus attractif. Cette prime concernera 400 000 enseignants. Annonce jugée insuffisante par Gabriel Latanzio. Il enseigne depuis 5 ans comme prof d'anglais dans un lycée de Seine-Saint-Denis et ne devrait pas toucher l'intégralité de la prime.
Moi, j'aimerais bien recevoir 100 euros par mois, ça me ferait plaisir. Alors, très exactement, c'est gradué selon l'ancienneté des collègues. Concrètement, moi, ce que ça veut dire, cette augmentation, c'est 48 euros par mois. 48 euros par mois, ça doit correspondre à peu près exactement à l'inflation lors de l'année passée. Moi, je crois que ce métier, il est très important. Je crois encore en sa mission, en son utilité, mais je suis très inquiet quant à l'attractivité du métier. Ce métier, il est difficile et il mérite davantage de considération et ça passe par l'argent.
Aussi. Témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui. Valéry Giscard d'Estaing, hospitalisé au CHU de Tours depuis dimanche soir. À 94 ans, l'ancien président souffrirait d'insuffisance cardiaque.
Un autre président. La sortie aujourd'hui en France du premier tome des mémoires de Barack Obama.
Une terre promise, c'est son titre, traduit en français chez Fayard. Il est déjà dans le top des préventes aux États-Unis. Un phénomène d'édition qui aura coûté très cher aux éditeurs. Nicolas Caro.
65 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 65 millions de dollars, c'est l'avance offerte au couple Obama pour la publication de leur mémoire. Pour les deux, hein, quand même, c'était un lot. D'abord Michel en 2018 et aujourd'hui Barack pour le premier tome de ses souvenirs. En France, c'est Fayard qui a obtenu les droits. C'est un pari pour espérer un retour sur investissement, mais les Obama font vendre. Les mémoires de Michel Obama se sont très bien vendues il y a 2 ans. 10 millions d'exemplaires dans le monde, 400 000 en France. Un très beau score qui rassure Sophie de Closet, PDG de Fayard.
C'est sûr que c'est un enjeu considérable, mais on a eu un succès inouï avec devenir les mémoires de Michelle Obama. Donc on sait qu'il y a une appétence de lecteurs pour ce couple, et puis on est assez sûr que c'est un livre qui fera date et qui va se vendre longtemps.
Dans Une terre promise, l'ancien président parle de sa vie privée, mais il revient aussi sur son mandat, les épisodes légers ou graves en tant qu'homme le plus puissant du monde, jusqu'en 2011 et la traque de Ben Laden. Le deuxième tome est en route, aucune date de parution n'est annoncée pour l'instant.
Et pour terminer ce journal, Sophie Eschen, petit extrait d'une interview que France 2 a obtenue de Barack Obama. Vous imaginez bien la course hein, pour avoir l'ancien président des États-Unis. France 2 a gagné ce match en envoyant le journaliste littéraire François Bunel, non pas un journaliste politique. Et pourtant, il est question de politique. Je pense que Nicolas Sarkozy a été un partenaire important, dit-il dans cette interview, comme Angela Merkel. Écoutez.
I actually found President Sarkozy to be an important partner along with Angela Merkel. And as I describe Nicolas, he is somebody who is constantly moving, constantly speaking.
Et comme je le décris dans mon livre, Nicolas est quelqu'un qui bouge sans arrêt, qui parle constamment. Voilà ce que dit Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, de l'ancien président français. L'interview ce soir à 20h40, c'est nos confrères de France Télévisions. 7h38, le calendrier de l'Avent qui démarre dès la mi-novembre. Objectif Noël, vous le savez d'abord, est-ce qu'on pourra prendre un train à Noël ? Un Noël en famille, ça demande de pouvoir se déplacer. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, est l'invité d'Europe Matin à 8h15. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk. On ne va quand même pas oublier non plus que Noël est une fête chrétienne à la base. Et justement, les catholiques de France peuvent-ils espérer pouvoir assister à la messe de Noël ? Aux messes le dimanche, jusque-là, pas d'ouverture dans l'immédiat, peut-être le 1er décembre. La voix de l'Église de France avec le père Hugues de Voilemont, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France, le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Toujours pas de messe en public le dimanche. Le gouvernement a tranché. Peut-être le 1er décembre, mais il faudrait un nouveau protocole sanitaire. Les catholiques divisés, certains manifestent et manifesteront le week-end prochain à nouveau. Mon invité, le père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Père Hugues de Voilemont, bonjour.
Bonjour.
La célébration du culte, la messe en public, pas avant 15 jours, le 1er décembre, peut-être avec un protocole sanitaire renforcé. Vous avez déjà dit une forme de déception, mais après tout, les commerces sont fermés, les théâtres sont fermés, les salariés doivent télétravailler. Entre autres mouvements, le collectif Rendez-nous la messe appelle à poursuivre les rassemblements dimanche prochain. Est-ce que vous soutenez cet appel ?
Alors le Premier ministre nous a bien indiqué les raisons pour lesquelles il nous demande encore de patienter. Ce sont des raisons sanitaires et l'Église comprend et participe évidemment de ce combat, de cet effort national que chacun de nous doit faire individuellement et collectivement pour que la pandémie régresse et cesse. Et en même temps, évidemment, comme vous l'avez dit, nous sommes impatients de pouvoir nous retrouver non seulement pour la messe, mais aussi pour toutes les activités paroissiales, le catéchisme, les réunions de jeunes ou des rencontres d'adultes.
Aujourd'hui, la vie paroissiale est à l'arrêt total.
Alors, la vie paroissiale continue, mais avec la visio, à travers, elle est compliquée, comme beaucoup d'autres secteurs. Et c'est sûr que notre vie paroissiale, elle est faite de rencontres. Hein. L'Église, c'est une communauté qui est rassemblée. La rencontre ne se fait pas à distance, elle peut se faire, mais elle est incomplète. Et donc, c'est vraiment dans la rencontre réelle que nous pouvons nous retrouver. Je pense vraiment que en cette période de crise, de difficultés économiques, sociales, psychologiques, pour beaucoup d'entre nous, de nos contemporains, la foi, l'Église propose des ressources pour tenir debout
une réponse.
dans cette crise
une et réponse à l'époque.
Pour pouvoir la traverser.
Je lisais dans La Croix hier matin, Guillaume de Prémard, ancien président de la Manif pour tous, je le cite, hein, « Autant nous avons été sidérés pendant le premier confinement, autant désormais la messe devient un enjeu de liberté publique. » C'est une liberté publique qu'on vous refuse ?
Ce n'est pas une liberté, en tout cas le gouvernement ne nous le présente pas comme cela, on nous présente cela comme des conditions sanitaires. Le culte peut continuer, c'est vrai que c'est la célébration publique de la messe qui ne peut pas être faite, et c'est sûr que c'est un manque pour beaucoup, pour les fidèles comme pour les prêtres.
Vous savez qu'il y a des catholiques qui sont agacés aussi hein, de voir, pardonnez-moi l'expression, des croyants se plaindre pour la messe alors que les hôpitaux sont saturés, l'économie est à l'arrêt, la place place du chrétien finalement. C'est à la messe le dimanche ou c'est de sauver des vies, d'aider les plus pauvres ?
Alors c'est dans les deux lieux. Je pense que le chrétien se nourrit des sacrements et d'une vie intérieure, d'une vie spirituelle, mais aussi d'une vie fraternelle, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Et vous avez raison, le chrétien aussi vérifie sa foi dans le service des plus pauvres, des plus fragiles. C'est aussi ce qu'on peut continuer à faire, évidemment. Vous savez, pendant le premier confinement, on avait créé une ligne d'écoute pour les personnes qui voulaient avoir une personne avec qui parler. Et nous pensons que, là encore, vu la situation actuelle, ce serait en tout cas très certainement une ressource qu'on peut proposer.
Finalement, je repense à ce que je l'ai cité souvent sur cette antenne, le père Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui m'avait parlé au moment du confinement de retraite collective. Le temps de la retraite collective est terminé, là on a envie de se retrouver entre chrétiens, notamment à l'approche de Noël.
Absolument, Noël est une fête importante de la vie de foi, c'est une fête populaire.
Et pas la plus importante, comme je l'ai beaucoup entendu. C'est Pâques la plus importante.
Voilà, c'est Pâques, mais il n'y a pas Pâques sans Noël, donc ce sont deux fêtes évidemment essentielles, très populaires aussi. Et bien sûr, nous attendons qu'on puisse se retrouver pour vraiment vivre cette fête de Noël avec les protocoles qu'on est en train de proposer au ministre de l'Intérieur.
Est-ce qu'il y a eu, justement, j'allais parler du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu un malentendu ces dernières semaines, en tout cas depuis l'annonce du nouveau confinement ? Nicolas Bétou le citait hier dans son édito. Je ne souhaite pas envoyer les policiers et les gendarmes pour verbaliser. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Mais s'il s'agit d'un acte répété, je le ferai dès ce week-end. Il y a eu un peu de brutalité.
Écoutez, en tout cas, les relations sont régulières avec les différents ministres, d'ailleurs, avec le gouvernement.
La régularité ne dit pas la qualité de la relation.
Non, voilà, il y a peut-être eu une crainte, mais on a bien vu que dimanche dernier, les quelques fidèles qui se sont manifestés, qui ont manifesté en tout cas leur impatience, l'ont fait d'une manière tout à fait dans le calme. Et cela aussi était un signe qui était donné. Beaucoup d'autres l'ont fait d'autres manières, en restant chez eux. En tout cas, l'impatience est partagée, non seulement chez les catholiques, mais aussi dans les 10 autres cultes que nous avons rencontrés avec le Premier ministre.
J'insiste, je pense à Haïm Korsia, le grand rabbin de France, qui dit « les gens commencent à s'impatienter, on parle là des juifs, pas que des catholiques ». Vous n'avez pas répondu à ma toute première question. Les appels à manifester dimanche, à se rassembler devant les églises, vous les soutenez ou pas ?
C'est une manière de manifester son impatience, il y en a aussi bien d'autres. Et puis surtout, je crois que ce sont des initiatives de fidèles, et c'est tout à fait, bien sûr, possible et bien que les fidèles aussi puissent prendre des initiatives qu'ils sentent heureuses, surtout que ces initiatives sont souvent déclarées en préfecture, donc elles sont autorisées.
Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, je voudrais profiter de votre présence avec nous pour vous parler du sujet d'après. Avec Nicolas Bétou, on va évoquer ce bras de fer entre Emmanuel Macron et les médias anglo-saxons, en cause l'interprétation de ce qui est dit en France dans les médias anglo-saxons sur la laïcité, sur le séparatisme, sur la question des caricatures, de la liberté d'expression. On ne comprend pas forcément, côté américain, côté anglais, la position française. Est-ce qu'à vos yeux et vos oreilles, votre écoute d'homme de foi, on y est allé un peu fort.
Je crois qu'en tout cas, effectivement, la laïcité à la française, beaucoup de Français, y compris des gouvernements ou des citoyens, ont parfois du mal à la comprendre. C'est un équilibre, à mon avis, auquel nous sommes arrivés, qu'il faut maintenir, qui laisse une place, évidemment, aux religions et l'État est garant de la liberté de culte et de conscience.
Sur la liberté d'expression, de caricature, de blasphème, on y est allé un peu fort, Hugues de Voilemont ?
Moi, je crois que sur la caricature, il y a à tenir deux choses. La liberté d'expression, qui est évidemment nécessaire, et en même temps, le respect de l'autre. C'est-à-dire que quand on touche à quelque chose qui est très essentiel au niveau de la foi, à l'autre, il faudrait, à mon avis, s'interdire à lui faire du mal ou à le blesser profondément. La foi, c'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose de vraiment de central dans la personne, ça relève de sa dignité. Et en effet, il peut y avoir des gestes, des paroles, des dessins qui peuvent profondément blesser l'autre. Et c'est sans doute à chacun d'entre nous de mettre une barrière quand on pense qu'on peut blesser l'autre.
Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bon courage, on attend le 1er décembre. Vous serez peut-être à l'église en train de célébrer la messe le 1er décembre. Nous verrons dans les semaines qui viennent.
Je
l'espère. Il est
7h48.
Merci. Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Avant l'édito politique de Nicolas Bétou, dans un tout petit instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h51.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous être utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
C'est un drôle de feuilleton qui est en train de se jouer entre la presse anglo-saxonne et Emmanuel Macron.
Oui, un feuilleton qui tourne même à la confrontation autour d'un sujet fondamental aux yeux des Français, mais extrêmement complexe et controversé aux yeux de nombreux pays étrangers, la laïcité. Coup sur coup, plusieurs tribunes ont été publiées puis dépubliées dans de grands médias anglo-saxons, le Financial Times et le site Politico, entre autres. Des papiers qui mettaient en cause la position d'Emmanuel Macron sur les caricatures et la lutte contre l'islamisme radical.
Retirer des articles d'un journal, ouais. Ça doit être rarissime.
Ah oui, c'est même sans précédent dans ces médias-là, et l'accusation n'a pas tardé. C'est Emmanuel Macron lui-même qui serait intervenu. En fait, on assure à l'Élysée que ces dépublications ont été décidées par les rédacteurs en chef de ces journaux parce que les articles contenaient trop d'erreurs, admettons. Sauf que le New York Times s'est invité dans la partie avec un long article de leur spécialiste média, en fait un vrai réquisitoire.
Bon, mais est-ce que ce n'est pas une affaire un peu microscopique, un débat finalement classique entre les médias d'un côté et le pouvoir de l'autre ?
Ouais, je crois que c'est en fait beaucoup plus que ça. En fait, tout est parti de la republication des caricatures du prophète. Les pays arabes et les pays musulmans, je pense à la Turquie bien sûr, ont vigoureusement condamné, il fallait s'y attendre. Mais le plus étonnant, c'est que le monde anglo-saxon n'a pas compris, n'a pas admis l'exercice de cette liberté. Et on l'a malheureusement constaté après l'assassinat de Samuel Paty, silence assourdissant aux États-Unis quand ce n'était pas pire.
Pourquoi ?
Eh bien parce que le politiquement correct est devenu la norme aux États-Unis. La presse est verrouillée par ça et les caricatures sont donc vécues comme une agression. Et puis la société anglo-saxonne n'est pas du tout construite comme la nôtre sur l'idée d'intégration, mais sur les communautés, sur la différence. Et peu à peu, cette incompréhension de notre modèle est devenue une condamnation poussée à l'intégration comme le fait la France, ce serait nier les différences, ce qui conduit finalement au racisme. Eh bien, la voilà, l'accusation implicite de ces médias. Et c'est évidemment un choc. En 5 ans, nous sommes passés du statut de pays des Lumières et de la liberté d'expression, un pays consolé par le monde entier après la tuerie de Charlie Hebdo, au statut de pays suspect de racisme institutionnel et d'islamophobie. Un désastre.
Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a personnellement réagi dans les médias.
Ben oui, sur Al Jazeera pour le monde arabe, dans plusieurs publications occidentales, dont le FT et le New York Times. Objectif, ne pas laisser s'installer l'idée qu'on est en guerre contre l'islam, mais bien contre l'islamisme radical. Avec un risque évident dans cette intervention d'Emmanuel Macron lui-même, celui de porter le débat à un niveau d'incandescence qui ne peut que faire monter l'exaspération. Le chef de l'État se voit comme le défenseur de nos principes universels, il a raison, mais ailleurs, dans le monde, on le voit comme un créateur de tensions. Eh bien, c'est une contradiction dont il doit désormais absolument sortir.
Merci Nicolas Bétou, et j'en profite pour vous donner deux citations. C'était dans le Figaro ce matin. Emmanuel Macron d'abord. Notre modèle est universaliste et pas multiculturaliste. Dans la société, je me fiche de savoir si quelqu'un est noir, jaune, blanc, s'il est catholique ou musulman, il est d'abord citoyen. Réponse presque du berger à la bergère, si j'ose dire. Barack Obama, les États-Unis constituent la première véritable expérience de construction d'une grande démocratie multiethnique et multiculturelle. Il ajoute, cela dit, nous ne savons pas encore si elle peut tenir.
Et nous ne savons pas non plus si notre modèle peut tenir.
Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Merci Nicolas.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF. Et bien sûr, c'est Monsieur Régis, notre responsable SNCF Sud, qui est venu saluer son PDG.
Bonjour Monsieur Cabrol, Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, bonjour à tout le wagon. Vous êtes un fou Béliard, je vous écoute. Votre matinale, elle part tous les matins, 7h pétant. Vous pourriez pas travailler la SNCF, vous Béliard, hein ? Moi, si c'était moi, chef de la matinale, moi, un coup, la matinale partira 7h, un coup, 7h10, un coup, partirait 2h après, puis elle partirait plus pendant 15 jours, elle partirait de temps en temps sur une autre voie, la voie RMC, la voie RTLE, oh, ça bougerait, je peux te dire.
Vous avez vu la déclaration, j'en profite, je vous tiens avec nous, la déclaration de Jean-Pierre Farandou, la SNCF sera rentable dans 10 ans.
Oh ! Oh la vedette! Elle sera rentable dans 10 ans, il se prend pour Patrick Bruel le patron. La SNCF sera rentable dans 10 ans, même jour, même heure, même gare. Oh, oh. La SNCF rentable, mais c'est de la foutaise! Si c'est rentable la SNCF, c'est plus SNCF! Hein, monsieur Béthou, vous êtes d'accord? Puis de toute façon, moi dans 10 ans, je m'en fous, j'aurai 42 ans. Ça fera belle lurette que je serai parti en retraite chez Fanny Agostini.
Bravo Nicolas Conteloup. La revue de presse à 8h45 tout à l'heure. Et vous l'avez entendu, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. 7h56. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Automnale, cette météo que je vous dis, moi, elle commence tristoune et elle finit en chansonnette. Tristoune parce que ce matin, il y a pas mal de brume, de brouillard, de nuages. Et puis au fil des heures, tout ceci va se dissiper presque partout. Hein, parce que près de la Manche, comme sur la région parisienne, les nuages seront un peu plus durs à s'évader. Mais non, on ne verra pas beaucoup d'éclaircies sur la région parisienne, quelques rayons de soleil. Alors que dans toutes les autres contrées, toutes celles du sud et de l'est, il fera beau, il fera même très beau avec un petit peu de vent d'ouest, donc c'est pas méchant, et surtout de la douceur, 16 à 20 degrés sur les régions du sud, autour de 15 à Paris, 14 à Besançon, à Orléans, Lens, Vichy et Lyon. Vous voyez que ce sont les températures entre 14 et 20 degrés, vraiment les températures sympas, et les belles journées pour Lyon, Marseille, Grenoble et Bayonne. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde changer. Il est 8h.
Nous avons maintenant deux vaccins qui ont près de 95% d'efficacité. Nous devons maintenant convaincre les gens, par notre transparence, de se faire vacciner.
L'enthousiasme du docteur Anthony Fauci, le très réputé immunologue qui conseille la Maison-Blanche depuis des dizaines d'années, après les annonces coup sur coup de deux vaccins américains au taux d'efficacité extrêmement prometteur. Et ce matin, sur Europe 1, on s'interroge sur ceux qui sont pour l'instant les absents de cette communication triomphale, les labos français. Où en sont Sanofi et Pasteur, page spéciale dans ce journal. Les différences sanitaires, l'immense enjeu économique et les stratégies en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Et puis dans ce journal, le bilan de santé de la SNCF après la grève du siècle et la pandémie qui a stoppé l'économie.
En plus du bilan de la SNCF, pourra-t-on prendre un train à Noël et dans quelles conditions? Le PDG de la SNCF, invité d'Europe Matin après ce journal, Jean-Pierre Farandou, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
90%, 92%, 95%, qui dit mieux en termes d'efficacité? Après Pfizer, après les Russes de Gamaleya, ce sont à nouveau des Américains, Moderna, qui ont peut-être fait l'histoire hier avec l'annonce d'un vaccin encore plus probant et qui ne demande pas une température polaire pour sa conservation.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Qu'en est-il de la France? Où en sont les laboratoires français? Ils ne sont pas aussi proches de la ligne d'arrivée.
Effectivement, il n'y a aucun Français parmi les 11 vaccins en phase 3. Les vaccins de Sanofi, GSK et Merck Pasteur sont eux aussi déjà testés sur l'homme, mais à plus petite échelle. Alors pourquoi ce décalage? C'est à cause du contenu du vaccin. Dans le vaccin de Moderna et Pfizer, on trouve de l'ARN messager, donc un code génétique qui éduque l'organisme contre le coronavirus. Et ça, c'est plus rapide à produire que de concevoir un vaccin à partir d'une protéine, comme le fait Sanofi, ou à partir d'un virus de la rougeole modifié, comme le fait l'Institut Pasteur.
Est-ce que le fait que parmi les premiers vaccins homologués, il n'y ait pas de Français, est-ce que c'est mauvais signe, Anne?
Alors non, pas forcément. Déjà, comme il faut vacciner quasiment toute la planète, 6 ou 9 mois de décalage, c'est peu. Et il y aura de la demande pour tous les vaccins efficaces. Ensuite, les vaccins français ont plusieurs atouts. D'abord, celui d'utiliser des technologies éprouvées. On a du recul sur la réponse immunitaire et sur les effets secondaires. Ensuite, pas besoin de gros congélateurs puisque ces vaccins se conservent entre 2 et 8 degrés. Et puis, il y a l'outil industriel. Pasteur s'est associé à l'américain Merck qui possède de gros sites de fabrication. Sanofi va produire ses doses de vaccins dans ses propres usines en Europe et aux États-Unis. Ça va aller très vite. Sanofi espère entamer les essais de phase 3 dès le mois prochain. Et si tout va bien, le laboratoire assure qu'il sera en capacité de fournir 1 milliard de vaccins entre avril et décembre 2021.
Alors Anne Le Gall, vous le disiez, on a besoin de plusieurs vaccins qui auront d'ailleurs forcément chacun sa spécificité.
Et d'ailleurs, c'était intéressant hein, ce que disait sur Europe 1 au micro de Patrick Cohen hier, la présidente du comité scientifique vaccin Covid-19. Écoutez, Marie-Paul Kiani.
Ces vaccins pourraient avoir en fait des caractéristiques différentes. On pourrait avoir des vaccins très efficaces chez les jeunes et qui le sont moins chez les personnes vulnérables et âgées qu'on voudrait protéger. Certains qui seraient plus efficaces que d'autres à bloquer la transmission à partir des personnes qui seraient infectées malgré la vaccination. Donc c'est très bien qu'il y ait plusieurs de ces produits qui progressent vers la mise sur le marché.
On comprend bien que la course au vaccin n'est pas finie et qu'on a besoin de tout le monde sur la ligne d'arrivée. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1.
Emmanuel, on entend parler de production en milliards de doses à l'échelle mondiale. Est-ce que la France aura sa part dans ces livraisons ?
Oui, et déjà la France a mis de l'argent de côté. Le gouvernement a provisionné 1,5 milliard d'euros pour acheter des doses. C'est beaucoup sur le papier, c'est même énorme, mais la facture pourrait s'avérer beaucoup plus lourde. Selon le journal Les Échos, le gouvernement a sécurisé 90 millions de doses auprès de 7 fournisseurs. Ça ramène la dose à 17 euros, ce qui n'est pas exorbitant comme prix. Si le vaccin devait être plus cher, la facture pourrait alors exploser. Oui. En tout cas, si les laboratoires sélectionnés par la France devaient réussir à trouver tous assez rapidement un vaccin, eh bien cette commande pourrait permettre de vacciner, selon les spécialistes, 45 millions de personnes. Pour certains vaccins, il faudra en effet 2 doses par personne. Il faut bien se rendre compte que ce serait l'une des plus grosses campagnes de vaccination de tous les temps en si peu de temps, avec la variole dans les années 50 et le H1N1 en 2009. En tout cas, vacciner à grande échelle, c'est indispensable pour que ce soit efficace.
Emmanuel Duteil, Yann Le Gall, vous restez en studio. On tourne ensemble les pages de ce dossier spécial. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Cette vaccination à grande échelle dont on vient de parler, on imagine, Pierre, la logistique, l'architecture que ça peut demander. Est-ce que la stratégie de la France là-dessus est au point ?
Alors, pas encore, mais on y travaille. Première décision très concrète, l'achat de 50 super congélateurs pour stocker à moins 80 degrés les vaccins qui en auraient besoin, comme ceux de Pfizer. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie générale de vaccination, on en est toujours au stade de la réflexion. Le gouvernement a missionné la Haute Autorité de Santé il y a 4 mois déjà. Les conclusions sont attendues pour début janvier, mais un certain nombre de recommandations ont déjà été formulées. D'abord, vacciner en priorité les personnes à risque, âgées, fragiles ou malades, le personnel soignant et leurs familles aussi. La Haute Autorité de Santé préconise également une mise à disposition gratuite du vaccin sans le rendre obligatoire pour autant. Enfin, elle demande à ce que les pharmaciens et les infirmiers soient habilités à l'injecter. Reste alors à définir les modalités pratiques. Où les doses de vaccin seront-elles stockées ? Où pourra-t-on se faire vacciner ? C'est là que l'Allemagne, par exemple, a de l'avance sur nous. Là-bas, 60 entrepôts de stockage ont déjà été identifiés, des casernes, des hôpitaux, tout comme des centres de vaccination, notamment le Palais des Congrès de Berlin, censé pouvoir traiter 20 000 personnes par jour.
Merci Pierre Herbulot. Vous parliez de l'Allemagne qui se prépare. Voyons comment la Chine est déjà prête. Avec vous Sébastien Lebelzig, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Plusieurs labos chinois travaillent sur un vaccin. Ils en sont à la phase 3, les tests cliniques, mais la vaccination est déjà lancée, Sébastien.
Oui, c'est une campagne de vaccination aussi massive que discrète qui a été lancée ces dernières semaines par le gouvernement chinois. Plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être 1,5 million selon certaines sources, se sont vues injecter un des 4 vaccins chinois encore en phase de test. 2 injections à 28 jours d'intervalle pour un coût total de 51 euros. Les laboratoires chinois sont persuadés en effet de l'efficacité de leurs produits. Alors pas question d'attendre. Écoutez Yu Shufeng, il est président du laboratoire CanSino.
Je pense que vous pouvez voir que la Chine est en avance. Le Covid-19 sera certainement la vitrine des vaccins chinois pour montrer leur capacité et montrer également leur contribution à la santé publique dans le monde.
Voilà, on l'appelle ici un programme d'urgence, mais vous l'avez compris, il est surtout question là de fierté nationale. Des militaires, des diplomates, des médecins, mais aussi des commerçants et des étudiants amenés à voyager à l'étranger ont déjà été vaccinés. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé appellent à la plus grande prudence, mais la production ici est déjà lancée. La Chine pourrait vendre 1 million de doses dès cette année.
Sébastien Lebelzig en ligne de Pékin pour Europe 1.
Alors Anne Le Gall, on entend ce qui se passe en Chine, même sans être un spécialiste, ça ne semble pas vraiment se faire dans les règles de l'art.
Oui, vacciner massivement avant la fin des essais cliniques, ça laisse sceptique beaucoup d'experts internationaux. Ils jugent cette vaccination prématurée au vu de nos critères de sécurité à nous.
Emmanuel Duteil, la raison de cette course au vaccin, au-delà de l'enjeu sanitaire, au-delà de l'enjeu aussi pour les labos.
D'ailleurs, attendez, on va écouter ces applaudissements, François. Oui. C'était à la clôture de Wall Street hier soir. Ambiance des grands jours à la bourse américaine.
Alors ça, c'était après le bond des compagnies aériennes ou de chaînes d'hôtels. Avec le vaccin, donc Emmanuel, on a là un enjeu économique majeur.
Oui, on entend la cloche. Pourquoi ? Parce que hier, on a tout simplement battu des records historiques. On n'a jamais terminé plus haut. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir sur les marchés américains? Pourquoi? Parce que si les vaccins sont efficaces, c'est l'économie mondiale qui pourrait être dégrippée. On pourrait aussi citer à Paris Unibail, leader mondial des centres commerciaux, qui a gagné quasiment 20% hier. Air France qui a pris plus de 10% hier. C'est dire vraiment l'espoir que suscitent ces vaccins. Tous les économistes sont d'accord sur un point. Grâce à un vaccin mondial, on peut espérer un rebond très rapide de l'économie. Il y a un seul delta à ça, il faut les trouver très vite, parce que si l'économie en revanche est trop abîmée au moment où ça arrivera, bah là, bien évidemment, ça mettra du temps à repartir.
Un vaccin anti-Covid et anti-crise, donc. Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Merci Anne Le Gall, du service société de la rédaction.
Et vous allez voir qu'aux États-Unis, on se pose exactement les mêmes questions sur la distribution des futurs vaccins, d'autant plus avec cette transition impossible entre deux présidents, l'un élu, l'autre qui prétend ne pas être battu et qui est encore en place, quoi qu'il arrive, pour deux mois.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Joe Biden met la pression sur Donald Trump, qui refuse toute coopération.
Oui, et ce refus de coopérer de Donald Trump peut avoir des conséquences très graves, explique Joe Biden.
More people may die.
Davantage de gens risquent de mourir, a déclaré le président élu. L'épidémie de Covid-19 a déjà tué près de 247 000 Américains et le nombre de cas explose partout dans le pays en ce moment. Certes, les progrès des vaccins sont une bonne nouvelle, dit Joe Biden.
How do we get over 300 million Americans vaccinated?
Mais comment va-t-on le distribuer à 300 millions d'Américains, demande le futur président.
What's the game plan?
Quel est le plan? L'administration Trump dit en avoir un avec son opération baptisé Vitesse de la Lumière. Mais si nous devons attendre l'investiture le 20 janvier pour le mettre en œuvre, ça va tout retarder, s'inquiète Joe Biden. Il faut de la coordination dès maintenant. Or, il n'y en a aucune, contrairement à l'usage qui veut que l'administration sortante transfère les dossiers importants aux équipes du nouveau président. Donald Trump se félicite juste que les vaccins aient été développés sous son contrôle, écrit-il dans un tweet, et il demande, je cite, à ce que les historiens s'en souviennent.
Les historiens, et nous aussi en l'occurrence, on se souviendra du mandat de Donald Trump. Merci Xavier Yvon, en ligne de New York pour Europe 1. 8h10, le PDG de la SNCF sera dans ce studio avec Sonia Mabrouk dans 5 minutes. Bonjour Aurélien Fleureau, spécialiste des transports de la rédaction.
Bonjour.
La plus longue grève de son histoire, c'était il y a presque un an, mais depuis il y a eu bien pire que cela avec le Covid. Aujourd'hui Aurélien, comment va la SNCF financièrement ?
Ah, la situation est préoccupante, hein. Les comptes sont dans le rouge vif. À fin septembre, le chiffre d'affaires a baissé de 5 milliards d'euros et il faut bien se rendre compte qu'en ce moment, plus aucune ligne n'est rentable. Ces pertes sont loin d'être épongées par le plan de relance ferroviaire du gouvernement puisque sur les 4,7 milliards d'euros, tout ne revient pas entièrement à la SNCF et surtout une très grande partie, 3,8 milliards, est consacrée au réseau, à la modernisation des voies. Cela permet donc de poursuivre les investissements mais pas de compenser les colossales baisses de fréquentation. À ce stade, Jean-Pierre Farandou ne demande pas de deuxième recapitalisation. Il met l'accent sur les gros efforts de productivité consentis qui, avec la mise en place du chômage partiel, ont permis de réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies.
Et Aurélien, à un mois des vacances de Noël, les réservations sont spécialement faibles.
Oui, avec 55% de retard par rapport à une mi-novembre habituelle. Nous sommes évidemment très loin du rush classique de fin d'année. En général, début octobre, l'ouverture à la réservation des billets pour Noël, c'est toujours un petit événement. Cette année, c'est passé inaperçu. Alors, pour rassurer les Français qui voudraient voyager en train, la SNCF assure que tous les billets réservés jusqu'au 4 janvier seront remboursables sans condition et que si la situation sanitaire le permet, l'offre sera normale. S'il y a un pic de réservation, la SNCF l'imagine plutôt vers la mi-décembre, pas avant. C'est devenu la norme. En ce moment, les clients achètent leurs billets au maximum 8 jours avant leur départ.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Un peu de musique ce matin. Vous l'entendiez dans le journal de 7h30, Barack Obama publie le premier tome de ses mémoires.
L'ancien président américain qui en a aussi profité pour dévoiler la playlist de sa présidence.
Sir Duke, évidemment un classique de Stevie Wonder.
On retrouve aussi Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Jay-Z, Beyoncé et les Beatles. Ah, Michelle, sans doute, peut-être, un clin d'œil à sa femme, Michelle Obama. Ça fera aussi vendre ses mémoires à elle.
Vous interprétez là, vous interprétez. François Geffrier, merci beaucoup. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites pour les fêtes? Prendrez-vous un train pour Noël? Mais pourra-t-on se déplacer? Et puis les billets, est-ce qu'ils seront remboursables en cas d'annulation? Vous l'avez compris, beaucoup de questions très concrètes ce matin pour le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.
Bienvenue et bonjour Jean-Pierre Farandou.
Bonjour.
La SNCF est-elle prête pour assurer les déplacements des Français lors des fêtes de Noël, si bien sûr la situation sanitaire le permet ?
Alors oui, la SNCF est prête, bien sûr. Hein, on a déjà des plans pour être capable de remonter le niveau d'offre des TGV, qui est aujourd'hui à 30% et qu'on pourrait remonter pour faire en sorte que chaque Français dispose de son train pour partir pour les fêtes en famille. On n'oublie pas non plus les trains de la vie quotidienne. Là, on le fait déjà, puisque quasiment tous les trains de la vie quotidienne circulent. Donc la SNCF est complètement mobilisée. Les cheminots l'ont fait déjà une première fois. Hein, il y a déjà eu confinement. C'était avant l'été. On est complètement mobilisé pour recommencer l'opération dès lors qu'on a le go sanitaire. Il faut que le gouvernement puisse nous dire 10 à 15 jours avant, vous pouvez y aller. Donc on attend cette décision qui devrait intervenir, je l'espère, fin novembre ou tout début décembre.
C'est ça, 10 à 15 jours avant pour pouvoir quand même vous adapter.
Ouais, il nous faut 10 à 15 jours parce qu'il faut faire en sorte que chaque rame TGV qui va être engagé sur les départs, hein, vers les stations de sport d'hiver par exemple, dans les Alpes ou sur toutes les destinations, soit impeccable. Voilà, donc on a environ 500 rames de TGV, il faut toutes les reprendre dans les ateliers pour être sûr qu'elles ont zéro défaut, qu'elles sont vraiment absolument prêtes à parcourir les centaines de kilomètres qui sont devant elles, parce que bien évidemment nous voulons zéro panne, c'est un challenge qu'il faut que nous relevions. C'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige potentiellement. Le parc TGV doit être absolument parfait, dans un parfait état, pour assurer un transport de qualité à tous nos clients.
Et vous l'avez dit, Jean-Pierre Farandou, actuellement, ce sont 30% des TGV qui circulent. Dites-moi, jusqu'à quel taux de fréquentation vous pouvez prévoir à Noël, jusqu'à peut-être 100% pour qu'il y ait suffisamment de trains pour les Français éventuellement ?
Oui, c'est ça l'objectif, vraiment, je le redis, c'est que chaque Français puisse disposer d'un train pour partir en vacances de fin d'année. Sur certaines lignes, on remontera à 100%, bien évidemment. Enfin, on est prêt à le faire. Je vous dis, les cheminots en ont envie, on en a envie. Et on serait ravis d'accueillir tous nos clients à bord de nos trains. On attend ce go sanitaire, je l'espère.
Pour le 1er décembre, hein, il vous faut
voilà,
cela,
fin
si
novembre,
j'ai bien compris.
1er décembre, ça nous permettrait d'être prêts à partir du 15 décembre prochain.
Vous avez déjà, Jean-Pierre Farandou, mobilisé les effectifs, informé les syndicats justement de cette éventuelle reprise à 100% quasiment ?
Oui, alors d'abord, le dialogue social fonctionne beaucoup au sein de la SNCF, pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, j'étais avec un syndicat, je suis en train de revoir tous les grands syndicats de la maison pour faire le point sur l'actualité, et Dieu sait qu'elle est riche. Et nous évoquons, bien sûr, cette perspective, et je crois que les syndicats, comme les cheminots, seraient absolument ravis de constater que la machine repart.
Il n'y a pas d'inquiétude de leur côté ?
Non, il n'y a pas d'inquiétude. Ils nous posent des questions légitimes sur le sanitaire. Vous savez que depuis le début de la crise sanitaire, nous mettons beaucoup d'énergie à protéger et nos clients et nos salariés, et c'est bien normal. Voilà, donc on se repose des questions. Est-ce que les conditions sanitaires d'emploi des cheminots sont bonnes ? Elles le sont. On y fait très attention. Nous avons intégré tous les gestes barrières dans les gestes métiers. Nous faisons ces revues de gestes métiers. Tout le monde est prêt pour faire face à, je l'espère, à cette bonne nouvelle qui serait le retour des TGV pour les fêtes de fin d'année.
Mais comme vous le dites, vous attendez ce go sanitaire. Et en attendant, si je puis dire, Jean-Pierre Farandou, est-ce que les billets déjà réservés sont échangeables et remboursables en cas d'annulation, si nous n'avons pas justement cette décision sanitaire ?
Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les clients. On l'a prise d'ailleurs dès le début du confinement parce qu'on voyait bien que les gens hésitaient à acheter un billet de train puisqu'ils ne savaient pas trop s'ils avaient à avoir le droit de se déplacer. Ouais. Donc nous avons rendu tous nos billets échangeables et remboursables. Voilà, donc les clients peuvent acheter leurs billets. D'ailleurs, il y a beaucoup de places en ce moment ouvertes à la réservation. Donc,
mais c'est vrai, peu de réservations, comme on l'a dit dans le journal de 8h il y a quelques instants, les Français attendent, sont dans l'expectative.
C'est ça, donc on voit bien, compte tenu de l'incertitude de la situation, les Français attendent un peu le dernier moment pour prendre leurs billets. Il faut qu'ils osent le faire, puisque de l'autre côté, on sera fair play, on échangera et on remboursera gratuitement si les gens au dernier moment ne pouvaient pas partir.
Avec une belle offre de prix, parce que ce qui inquiète nos auditeurs, et puis évidemment l'ensemble des Français, ceux qui prennent le train, ce sont des prix mirobolants cette période-là. Est-ce que vous aurez une offre spéciale ?
Alors c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il faut que les Français réservent assez tôt, parce que nos petits prix, c'est quand vous réservez à l'avance. C'est vrai que quand on attend au dernier moment, peut-être les petits prix ont disparu, ça peut être des prix plus standards qui sont proposés à nos clients. C'est-à-dire un sujet sur lequel je veux travailler. Vous savez que moi j'en ai un peu assez qu'on dise que la SNCF c'est cher, parce que d'abord c'est pas vrai. Il y a beaucoup de petits prix dans nos gammes tarifaires.
Il faut encore convaincre. Hein.
Oui, je sais bien. Voilà, donc il y a un travail de conviction à faire, et c'est pour ça que j'ai demandé à ma direction voyageurs de travailler sur une évolution de la tarification pour faire en sorte, par exemple, qu'effectivement au dernier moment on puisse encore trouver des petits prix quand on veut acheter un billet de train.
Malgré tout, Jean-Pierre Farandou, le Covid n'aura pas disparu par enchantement à Noël. Comment vous allez gérer la situation sociale, la distanciation, pardonnez-moi, sociale, avec des quais bondés, des trains remplis ? Comment ça va se passer ?
On l'a déjà fait, hein. C'est quelque chose qu'on a fait une répétition générale, j'allais dire, au moment du déconfinement avant l'été, puisque la SNCF a été au rendez-vous du départ des Français pour l'été, donc on avait à nouveau beaucoup de monde dans les gares, dans les trains. On rappelle les principes sanitaires dans le ferroviaire. D'abord, nos trains, nos rames, sont désinfectés au moins une fois par jour. plus du nettoyage complémentaire dans les gares ou même à bord, hein, en cours de route. Donc un très gros effort sur la désinfection et le nettoyage, c'est quelque chose qui restera acquis d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on ne baissera jamais la garde, c'est très important que les trains soient parfaitement propres, parfaitement sûrs d'un point de vue sanitaire. Deuxièmement, l'autre pierre angulaire, c'est le port du masque. D'ailleurs, dès le printemps l'année dernière, j'avais dit, il faut que les Français portent le masque quand ils prennent le train. C'est fait, c'est très respecté. Dans les gares, dans les trains, les voyageurs portent le masque et nos personnels, d'ailleurs, y veillent.
Oui. Et l'occupation enfin... des sièges, non ? C'est de alors, cela le... aussi qu'il s'agit, parce que je crois, Jean-Pierre Farandou, que là, c'est 30 à 40% de sièges occupés. Alors, s'il y a beaucoup de réservations et si on peut partir à Noël, on imagine que vous allez monter cette jauge.
Oui, alors la règle du 1 sur 2, c'est une règle qu'on avait avant le port du masque généralisé. Elle est finie maintenant. Hein. Depuis le printemps, on a le droit, je vais dire, de faire asseoir les gens les uns à côté des autres. On le répète, avec le masque, avec bien sûr les gestes barrières. Nous recommandons bien sûr de se laver les mains ou de prendre du gel hydroalcoolique avant le parcours, après les parcours. Donc si on respecte l'ensemble de ces règles, nous sommes sûrs que les trains ne sont pas dangereux d'un point de vue sanitaire.
Mais n'y a-t-il pas quelque chose de paradoxal, Jean-Pierre Farandou, alors que les restaurants, les théâtres, les salles de sport qui appliquent ce que vous dites vont rester fermées alors qu'on aura beaucoup de voyageurs dans les trains?
Ouais. Écoutez, moi je mets nos métaux dans notre énergie à la SNCF pour que nos trains soient sûrs. Donc c'est ce qu'on fait. Je rappelle aussi que l'air est renouvelé toutes les 3 minutes à bord de nos trains. C'est comme si vous ouvriez les fenêtres. C'est de l'air de l'extérieur qui est réinjecté dans les rames. Donc quand vous rajoutez tout l'ensemble de ces mesures, nos trains sont absolument sûrs. Et d'ailleurs, on le voit dans les statistiques du ministère de la Santé, il y a très peu d'infections dans les trains, très très peu. Il y a d'autres endroits.
Vous avez une base de données officielle indiquant qu'il n'y a pas de foyer de contamination dans les trains ?
Oui, c'est suivi par le ministère de la Santé et on voit que la pandémie dans les trains, c'est moins de 1% des causes de déploiement de l'épidémie. Donc il y en a quelques-unes, mais très très peu, c'est moins de 1%. Donc ça n'a rien à voir avec d'autres endroits qui sont peut-être plus exposés en matière de transmission du virus.
À vous entendre, Jean-Pierre Farandou, ce matin, j'ai l'impression que vous savez d'ores et déjà, que vous vous préparez d'ores et déjà à cette réouverture, à ce déplacement des Français pour les fêtes. C'est le cas ?
Ah oui,
ou alors c'est une projection de votre part ou vous avez des informations ?
Non, j'ai pas d'informations, mais on se prépare bien sûr dans nos têtes, on est prêt, j'allais dire même on en a envie, mais on a bien compris qu'il faut un go sanitaire parce que on ne plaisante pas avec l'état de santé des Français. On se prépare d'ailleurs aussi à l'après-Covid, hein. On est aussi en train de se dire comment on arrive lancé pour relever les challenges qui seront les nôtres dans le monde d'après.
Ben, le monde d'après, avec un projet de transformation que vous avez d'ores et déjà initié à la SNCF, comment on peut encore continuer un tel projet en étant dans le brouillard, dans le grand flou ?
Non, c'est important. On sait tous qu'il y aura quand même une fin. D'ailleurs, on entend parler de vaccins, donc ça nous donne l'espoir.
Avec prudence.
Il faut être très prudent en matière de date. Mais un jour ou l'autre, nous arriverons à maîtriser cette pandémie. Et dès lors qu'on se projette dans le monde d'après, on a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de reconquérir la clientèle. On a de la place dans nos trains et il n'y a pas de raison. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux aussi des prix accessibles. Je veux que les Français reviennent nombreux à bord de nos trains. Nous sommes le mode de transport le plus écologique, le plus sûr. Il faut que la part de marché du ferroviaire augmente dans ce pays.
Il faut le rester, hein, le plus écologique, ou en tout cas tendre vers cet objectif. Comment vous allez faire ? Parce que le gouvernement a aidé Jean-Pierre Farandou, la SNCF, de plus de 4 milliards d'euros pour couvrir déjà les pertes du premier confinement. Mais pour le second, si l'État n'y va pas, qu'est-ce que vous faites ?
Alors vous avez raison de rappeler que l'État nous a aidés à hauteur de 4,7 milliards d'euros d'argent public qui ont été consacrés aux ferroviaires, principalement sur le réseau, hein, la rénovation du réseau, être capable de mettre des rails neufs, du ballast neuf, des traverses, c'est très important, parce que même si ça se voit pas, il n'y a pas de bons services ferroviaires si le réseau est en mauvais état. Donc grâce à ce plan de relance, nous allons pouvoir poursuivre l'effort de rénovation du réseau, ce qui est fondamental. Ensuite, pour le reste, on verra bien comment on avance, c'est encore trop tôt, nous n'avons pas encore discuté avec le gouvernement de voir la manière et comment l'État devra ou pourra nous aider au cours de l'année prochaine.
Mais vous ne demandez pas encore une seconde, une deuxième recapitalisation ?
Non, pas du tout, c'est encore trop tôt, on regarde les choses.
Malgré vos comptes dans le rouge vif ?
Oui, non, mais c'est encore prématuré, on n'en est pas là, il faut d'abord faire le compte, justement prévoir ce qui pourrait se passer en 2021, et surtout, je le redis, se projeter après, très important quand on est dans le ferroviaire, on n'est pas 3 mois près, on n'est pas sur 1 an, on est sur une vision pluriannuelle.
Vous êtes même à 10 ans quand vous dites que la SNCF sera rentable dans 10 ans, certains ont souri. Comment vous pouvez nous dire ce matin, ou depuis quelques jours, Jean-Pierre Farandou, dans 10 ans, ça y est, la SNCF sera rentable? C'est la pensée magique ou alors vous avez un plan stratégique et clair?
On a un plan stratégique et clair. Moi, je suis convaincu que la SNCF et donc le ferroviaire a beaucoup d'avenir dans la mobilité dans notre pays. Il y a une poussée de la population, on le voit sur la Convention citoyenne, pour dire le train, c'est la solution. Aujourd'hui, la part de marché du train, en voyageurs comme en marchandises, c'est 10%. Donc il y a beaucoup encore de volume à conquérir par cette politique d'accessibilité sur les prix pour les voyageurs, par une politique plus offensive sur le train, pour le transport des marchandises. Je suis convaincu qu'il y a, qu'on peut faire beaucoup mieux dans le transport des marchandises. Je crois effectivement qu'il est censé de dire, grâce aux efforts de la SNCF, par la maîtrise des coûts qui permettra d'avoir des prix plus bas, par là...
Ça c'est une promesse, hein, des prix plus bas à terme. Nous ne sommes pas que dans la période là des fêtes. Vous essayez d'instaurer cette baisse des prix à long terme.
Bien sûr, nous en aurons besoin pour convaincre les Français de revenir plus nombreux dans les trains. Et n'oublions pas aussi le défi de la concurrence, parce que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, bien le marché va s'ouvrir, le monopole ferroviaire c'est fini, et nous devrons nous affronter à des concurrents. Mais quand vous affrontez à des concurrents, il faut être très bon sur la qualité, il faut être aussi très bon sur les prix.
Bon, il faut vraiment nous faire aimer le train en cette période, hein, c'est ça ?
C'est ça, l'objectif, c'est de faire aimer
le train. Peut-être un nouveau slogan, le train c'est la solution.
Le train c'est la solution. Bon. Vous savez, je pense que les Français aiment déjà le train, il faut un petit déclic, un petit coup d'épaule pour faire en sorte qu'ils soient de plus en plus nombreux à se retrouver dans nos trains.
Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 8h30, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Le gouvernement tranchera la semaine prochaine sur la possibilité d'une réouverture des petits commerces pour le Black Friday le 27 novembre. C'est le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui l'annonce ce matin. En revanche, les restaurateurs n'ont aucun espoir de pouvoir rouvrir rapidement. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire les a reçus hier et selon vos informations, Carole Ferry, ce ne sera pas avant les fêtes de fin d'année.
Alors selon les représentants du secteur, en tout cas, c'est plié. Il n'y aura pas de réouverture avant au moins la mi-janvier. Bercy, de son côté, refuse de confirmer et assure qu'aucune date n'est encore fixée. Une chose est sûre, il y a beaucoup de négociations autour des conditions de cette fermeture. Est-ce que le gouvernement est prêt à renforcer les aides si les bars et restaurants sont les seuls à rester fermés ? Une exception vécue comme une injustice par Marie-Pierre Bouvier. Elle tient à un restaurant dans la Drôme la nuit. Elle travaille comme aide à domicile. La journée, elle livre quelques repas aux entreprises du coin. Ce qu'elle souhaiterait surtout, c'est un calendrier.
Tous les 15 jours, on attend les nouvelles du gouvernement et chaque fois, on nous dit, allez, bim, voilà, c'est reculé, c'est repoussé, quoi. On va faire une course en grande surface, c'est blindé de monde et nous, on nous oblige à fermer, quoi, je veux dire. Et si on nous fixait vraiment une date, voilà, on nous dit, bon, allez, on leur laisse ouvrir à telle date au 15 janvier. Ok, mais là, on ne sait pas. On se sent vraiment laissé pour compte.
Une nouvelle réunion est prévue en fin de semaine à Bercy. Cafetiers et restaurateurs espèrent être davantage fixés à ce moment-là.
Carole Ferry, les patrons de bars et de restaurants envisagent un recours en justice pour dénoncer leur fermeture. Bonne nouvelle en revanche pour les fleuristes. Ils pourront vendre des sapins de Noël à partir de vendredi, annonce du ministre de l'Agriculture Julien de Normandie. Cher Père Noël, cette année nous prenons l'engagement d'un Noël sans Amazon. Des élus de gauche et écologistes comme Anne Hidalgo ou Éric Piolle, le maire de Grenoble, ainsi que des personnalités du monde de la culture et des associations, tous lancent une pétition aujourd'hui. Ils appellent à ne pas commander sur Amazon pendant la période de Noël et de demande aussi des lois pour freiner le développement du géant d'Internet. Drôle de tour de passe-passe des assureurs. Ils ont économisé plus de 2 milliards d'euros lors du premier confinement. Moins de voitures, donc moins d'accidents sur les routes. Et pourtant, ils augmentent leurs tarifs. Un enfumage, selon les termes de l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Élise Dangean.
Oui, plus 1,5 à 2% en moyenne. Alors des hausses de prix, il y en a quasi chaque année, mais beaucoup d'assurés s'attendaient cette fois à un geste. Car il faut savoir que près de 70% des cotisations que l'on paye sont redistribuées pour indemniser les sinistres, moins nombreux en cette année marquée par deux confinements. Et pourtant, sur les 12 principales compagnies françaises, elles ne sont que deux à avoir annoncé un gel des tarifs pour 2021. Celle d'Eva n'en fait pas partie. Elle a reçu l'échéancier de son assurance voiture il y a quelques jours et elle est en colère.
C'est pas 50 centimes, hein. C'est quand même plusieurs euros, voire même 5-6 euros par mois. Donc référence au confinement de cette année 2020, je trouve ça honteux en fait.
Mais il y a des recours, dit Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir, qui a mis en place un courrier type pour les assurés qui souhaitent faire valoir leurs droits.
Le code des assurances est très clair, il dit que dès lors que les consommateurs font face à une diminution du niveau de leur risque au cours de leur contrat, eh bien ils peuvent avoir droit à une diminution du montant de leur prime.
Pour que la règle devienne généralité, l'UFC Que Choisir en appel au gouvernement, objectif qu'il rende obligatoire la rétrocession du trop-perçu.
Élise Dangean, deuxième journée du procès de Jonathan Daval, accusé du meurtre de sa femme. Il sera confronté à ses ex-beaux-parents. Les inquiétudes pour la santé de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, âgé de 94 ans, est hospitalisé depuis dimanche soir à Tours pour une insuffisance cardiaque. L'évacuation en cours d'un important campement de migrants au pied du Stade de France à Saint-Denis. Plus de 2000 personnes vivaient dans des conditions insalubres. Elles sont emmenées vers des centres d'accueil d'Île-de-France. Un premier cas de grippe aviaire décelé en France, précisément dans une animalerie en Corse près de Bastia. Tout le pays est désormais placé en niveau de risque élevé. Et puis il y a du foot ce soir. France-Suède, dernier match du premier tour de la Ligue des Nations. Rencontre sans enjeu, les Bleus sont déjà qualifiés pour les demi-finales.
Merci Hélène Zélani, 8h34.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Le temps avec vous Laurent Cabrol.
Eh bien tout va s'améliorer au fil des heures hein, pour aujourd'hui. Là, il y a pas mal de brume, de brouillard et surtout de nuages bas. Hormis peut-être la région parisienne, même sûrement la vallée de la Loire, où nous conserverons encore des nuages assez tenaces avec des éclaircies plus parcimonieuses. Mais partout ailleurs, le soleil sera présent et des températures de 15 à 20 degrés. Demain, mercredi, soleil et douceur sur quasiment toute la France. Des petites pluies passagères sur la Bretagne, le Cotentin, mais partout ailleurs, on peut dire qu'il fera beau avec des températures de 15 à 20 degrés. Donc c'est une belle journée quand même demain. Jeudi, des éclaircies progressivement au fil des heures, elles s'établiront un petit peu partout avec quand même encore un peu de pluie dans le sud-ouest et la haute vallée du Rhône, vers Lyon donc. Vendredi, samedi, ce sera assez beau avec un temps froid, certes un petit peu froid, oui, un petit peu froid le matin et assez agréable dans la journée, mais enfin, vous voyez que ce type de temps, celui que nous avons en ce moment, ne varie guère, c'est tantôt bien, tantôt moins bien, mais enfin dans l'ensemble c'est pas trop mal.
Merci beaucoup, tantôt bien, tantôt moins bien, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. On va retenir Laurent Cabrol, la météo 8h35 sur Europe 1. À suivre, notre santé, Jamie Mohamed, notre planète, Fanny Agostini, qui va nous parler des platistes. Vous savez, 16% des Américains pensent que la Terre est plate. On va en parler avec Fanny Agostini, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, nous retrouvons le docteur Jamie Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jamie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, ce matin, écoutez bien, il y aurait un lien entre des addictions à l'alcool ou d'autres drogues, par exemple? Ce lien entre les addictions et la flore digestive qu'on appelle aussi le microbiote.
Et oui, c'est extraordinaire. C'est la question que tous les chercheurs et scientifiques se posent. C'est la question de la dépendance. Pourquoi, face à une substance, nous ne sommes pas tous égaux? Certains vont rapidement tomber dans la dépendance, d'autres pas du tout. Certains vont avoir du mal à s'arrêter de fumer, par exemple, ou arrêter de prendre de l'alcool. Eh bien, ça viendrait peut-être du microbiote. Et je vais vous parler d'une expérience extraordinaire chez la souris, chez qui on a rendu addict à la cocaïne. On a modifié leur circuit de circulation de la bile. Alors la bile, vous savez, elle est produite par le foie et elle sert à absorber les matières grasses. En temps normal, elle est fabriquée par le foie. Elle va dans le petit intestin, elle va être chargée, elle va rencontrer des bactéries du microbiote et puis elle va remonter tranquillement au niveau du foie. Eh bien, chez la souris, on a décidé de changer le sens de circulation de la bile. Au lieu de passer par l'intestin où il y a plein de petites bactéries, on la fait directement remonter par le foie, et à ce moment-là, les souris qui étaient initialement addictes à la cocaïne n'éprouvent plus aucun intérêt pour cette drogue. Lorsqu'on leur donne, elles n'ont aucun plaisir et la dépendance s'arrête. Les chercheurs ont poussé l'expérience plus loin et ils se sont rendus compte qu'il y avait des récepteurs à la bile dans notre cerveau. Et que lorsqu'on inactive ces récepteurs, eh bien on supprime le mécanisme de dépendance. C'est pour ça qu'on vous dit que le tube digestif, c'est notre deuxième cerveau.
Alors, est-ce qu'on a une solution pour justement améliorer ce microbiote? Qu'on comprenne bien, hein, c'est la vie au sein de nos intestins. Exactement. Ce sont des microbes, des bactéries, des êtres vivants.
La flore commensale, la flore digestive. Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre comment ça marche. On a du coup dans le tube digestif, une paroi qui forme une barrière. Une barrière qui, en temps normal, est bien étanche. Elle protège le milieu extérieur des bactéries. Mais chez les gens qui ont un microbiote, une flore intestinale altérée, cette barrière marche moins bien et c'est peut-être pour ça qu'on serait dépendant à certaines substances, qu'on aurait d'autres pathologies. Donc on a refait une expérience chez des souris qui, encore une fois, étaient obèses et dépendantes à l'alcool et on a essayé de réparer cette barrière qui ne marchait pas bien. Et leur a administré de la pectine. La pectine, c'est une fibre naturelle qu'on trouve dans les pommes, dans les peaux de la pomme et dans les pépins. Et lorsqu'on donne ça à des souris, eh bien, on rétablit leur mécanisme de dépendance. Elles ne sont plus dépendantes à l'alcool et leur poids redevient normal. C'est pour ça que les Anglais disent « An apple a day, keep the doctor away », une pomme par jour éloigne le docteur. Tout ça pour vous faire comprendre que prendre soin de sa santé, eh bien, il faut d'abord prendre soin de son microbiote. Et c'est peut-être ça l'avenir, la médecine au travers de l'alimentation.
Je ne sais pas comment rebondir sur le fait qu'on en sait un petit peu plus sur l'accent de Jamie Mohamed quand il parle en anglais, hein, un apple a day, mais c'est on retient évidemment. Merci Jamie Mohamed, notre santé tous les matins. pourrais la tenter avec Fanny Agostini, remarque, hein, puisqu'on va partir aux États-Unis. Bonjour, chère Fanny Agostini.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le congrès international des platistes a été annulé.
Oh, c'est dommage.
On va rappeler ce que c'est qu'un platiste aussi.
Oui, allez-y. Alors s'il y a une manifestation dont on peut se réjouir de l'annulation à cause du Covid, c'est la réunion annuelle des platistes, effectivement, qui se tient habituellement à la mi-novembre à Dallas et qui tombe, pour le coup, à plat. Les platistes sont les personnes qui font partie de la communauté grandissante de ceux qui croient fermement que la Terre est plate comme une assiette. Théorie qui revient d'ailleurs sur le tapis des doutes et des conspirations. La complosphère se réveille encore plus vigoureusement aujourd'hui avec cette pandémie qui, elle aussi, réactive des réactions complotistes.
Alors, les platistes seraient vraiment nombreux.
Alors,
au point de faire
un
congrès, pardon, mais un congrès international.
Au point de faire un congrès, déjà, on serait quand même, ça c'est peut-être difficile à croire, mais pourtant c'est vrai, 9% en France, selon une étude IFOP, à envisager la platitude de la Terre, ou en tout cas à douter qu'elle est ronde. 7% de la population brésilienne, dont un des proches conseillers du président Jair Bolsonaro, qui a publiquement émis des doutes sur la rotondité de notre planète. Et puis aux États-Unis, vous vous en doutez, c'est là où le vivier est le plus important, et où est née la Flat Earth Society. Qui compte 12 millions d'Américains, ça fait quand même assez flipper. Il faut dire qu'un coup d'accélérateur a été donné à l'élection de Donald Trump en 2016 avec de plus en plus d'adhérents issus de la jeunesse. Pour eux, en gros, la Terre ressemblerait à un disque sur lequel les continents s'étaleraient, bordé d'un mur de glace, oui, tout autour, pour éviter notamment aux poissons de tomber dans le vide. Vous comprendrez alors que quand on est platiste, on est aussi nécessairement climato-sceptique, car si la glace venait à fondre, c'est notre map monde qui se déverserait tout entière dans l'espace. C'est une idée qui est très sérieusement théorisée, hein, n'empêche, avec des pseudo-scientifiques qui se lancent dans des nébuleuses explications, les clichés vus de l'espace étant jugés comme photoshopés, et on se rend compte que ce sont les réseaux sociaux qui jouent un rôle d'amplificateur pour semer le doute.
D'autant que des personnalités très populaires ont fait leur coming out, si on peut dire.
Oui, bah dans la liste des platistes célèbres, il y a Shaquille O'Neal, le joueur de la NBA, qui pèse quand même 15 millions de followers sur Twitter et 18 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Il a relayé cette idée sur ses réseaux sociaux en disant qu'il n'y a que son ballon qui était rond. Et puis le rappeur B.O.B. Qui a même lancé une campagne, il y va très fort lui, de crowdfunding pour envoyer un satellite lui-même dans l'espace afin de vérifier, d'obtenir des photos non truquées de la Terre.
Eh bien, on n'a qu'à attendre que son satellite revienne. Merci Fanny Agostini. Bon, notre planète à plat ou en rond, mais surréaliste ce matin en tout cas. Fanny Agostini, 8h40. Et à suivre, Nicolas Canteloup, la revue de presse, bien sûr, avec Julie qui s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, monsieur Farandou, vous êtes président de la SNCF. Est-ce que la SNCF est prête à un trafic normal, monsieur Farandou ?
Écoutez, en tout cas, on est impatients, SNCF, on a envie, on est vraiment prêt. On attend juste le go sanitaire pour pouvoir faire démarrer les trains à nouveau.
Est-ce que pour les fêtes de Noël, il y aura un trafic normal, vous espérez, pour les fêtes de Noël ?
Oui, écoutez, en tout cas, on a très envie, on est prêt, on attend juste le go sanitaire.
Oui, hein ? Et la règle du 1 siège sur 2 est levée pour l'occupation des sièges dans les wagons, dans les rames ?
Oui, tout à fait. On a ouvert les sièges. Tous les sièges sont libres maintenant. On attendait juste pour le faire d'avoir, bien sûr, le go sanitaire.
À vous entendre, vous préparez à... On sent que vous avez des informations. Vous préparez un retour à la normale ? Vous avez des infos, c'est ça ?
Non. Non, j'ai pas d'infos, Mme Abrouk, mais on est prêt. Voilà, on attendait juste le go sanitaire et là, on a ouvert les sièges.
Merci, Jean-Pierre Farandou.
Voilà, c'est bon. Je peux y aller, là. Vous me donnez le go sanitaire.
Ah, il est bien.
Oui.
Il est bien, mon Farandou, notre PDG. Il est bien. Il attend toujours le go sanitaire. Pour aller même au sanitaire, il attend que le petit loquet sur la porte soit vert. Il attend le go sanitaire.
Monsieur Régis.
Pardon, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Justement, je voulais vous dire, je vous explique ma situation. Bonjour, oui. Je ne sais pas qui est là. J'ai été invité hier de Sébastien Krebs dans la matinale à 5h40. Oui, je suis encore dans vos locaux. Moi, je ne change pas. J'attends pas le gros sanitaire, j'ai tout. Je change juste la porte de sortie, s'il vous plaît.
La porte de sortie.
Hein, si vous pouvez m'aider.
Oui, Gilbert.
Ah, pardon, madame. C'est une vitre, ça, oui. Oh, non. Oh, pardon, madame, excusez-moi. Non, voilà, vous êtes glacée, vous êtes une vitre. Ouais, en liberté. Est-ce que quelqu'un peut m'aider plutôt de
s'il vous plaît, vous pouvez aider, monsieur Montagnier.
Il faut qu'on arrête là, non, parce
que je pense qu'on va l'avoir toute la semaine, Gilbert.
Allez, on va vous retrouver, tiens Mathieu, tout de suite pour le titre de l'actu.
Oui, bonjour, cher Julien. C'est pas bien ce bouquet des gens non-voyants. C'est Mathieu Béliard, l'info sur Europe 1. L'info du jour, c'est le nouveau vaccin du laboratoire américain Moderna. Et cette question, où en est le vaccin français? Le vaccin made in France? Eh bien, selon nos informations exclusives, Europe 1, bien sûr, on attend encore les anticorps. Que les anticorps soient bien maturés au soleil pour qu'ils ne soient pas bouchonnés et possèdent un arrière-goût de vanille.
Ah, d'accord.
Moi, j'ai goûté le vaccin. Hein. En exclusivité, j'ai en avant-première. Hein. J'étais dans le Beaujolais, il y a un arrière-goût de banal dans le vaccin. Là.
Merci Laurent, oui, merci pour... Vous êtes quelque part notre envoyé spécial sur ces coups-là. De toute façon, il y aura certainement plusieurs milliers de doses à déguster obligatoirement, bien sûr, avec un bon comté de 18 mois, ça peut être sympa.
Oh, ça, je confirme, ça peut être sympa.
Allez, votre info. On parlait avec le PDG de la SNCF. Les commandes de billets de train sont très faibles pour les fêtes. Il nous l'a confié, révélé en exclusivité sur Europe 1. Les billets, vente de billets très faibles. C'est vrai que c'est étonnant. On n'a pas le droit de sortir de chez nous. On n'a pas le droit de s'approcher trop près de mamie. On risque de la tuer. Bizarrement, les gens ne se ruent pas sur les billets de train pour les fêtes. C'est vrai, c'est une info dont on ne soupçonnait pas sur Europe 1. Ils sont chelous, les Français. Et puis Marine Le Pen. Marine Le Pen a déclaré ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden. Bon, en même temps, on lui en veut pas. Elle y peut rien. Elle sait pas à quoi ça ressemble une victoire. Donc, voilà. Elle va me détester, mais c'est pas très grave. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. A-t-on dépassé le pic épidémique? D'après Olivier Véran, il serait derrière nous. Mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. Jean Castex, vous êtes le Premier ministre. Bonjour.
Bonjour, madame Julie, bonjour, monsieur Béliard, et bonjour, bien sûr, à papy et à mamie qui nous écoutent sur leur sonotone.
Alors, le pic épidémique serait derrière nous, c'est ça?
Écoutez, il semblerait, les courbes baissent inexorablement, comme celle également de ma popularité.
Ah oui,
autodérision,
vous
voyez, je ne suis plus à sa prête. Mais nous devons être encore prudents. Vous savez, je suis lucide. Les gens me trouvent nul, peut-être. Les gens pensent que je n'ai pas anticipé la deuxième vague. Alors je le dis, est-ce que vous pensez vraiment que je serai prêt pour une troisième vague? Eh bien, la réponse en toute honnêteté est non, évidemment non. Donc CQFD, ne relâchez pas vos efforts, faites confiance en vous, seulement en vous, pas en moi.
C'est clair. Sur Twitter, vous avez répondu à un enfant qui vous demandait si le Père Noël allait passer. Ce qui traduit évidemment l'inquiétude de nombreux Français.
J'en ai conscience de cette inquiétude. D'ailleurs, j'ai répondu à cet enfant. Toute transparence, je lui ai dit « Pour Noël, mon enfant, ça sent le sapin. » Voilà, faut être honnête.
C'est pas très sympa comme réponse à un petit enfant hein, qui attend le Père Noël.
Je vous l'accorde, d'autant que de nombreux Français croient au Père Noël, puisqu'ils ont voté Emmanuel Macron.
Oh,
un peu d'autodérision, quand c'est pas sur moi, c'est mieux. Mais je tiens à les rassurer. Et les enfants, je m'adresse à vous. Voilà. Ah, Noël, vous aurez un joli cadeau. Un cadeau utile. Un vaccin. Oui, à Noël, vous aurez une petite piqûre avec une grosse belle seringue, toute brillante, on pourra même mettre des étoiles dessus. Et une belle grosse aiguille. Vous serez vacciné par une grosse infirmière à moustache rigolote avec des poils. Et à Noël,
ça va pas, non?
Il y aura, c'est du vécu. On n'a qu'une infirmière, moi, dans mon village, elle est comme ça. Il y aura, je la salue, il y aura aussi encore plus de tests PCR. On vous enfoncera au-delà de l'aiguille la longue tige dans le nez. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on dit, les enfants? Vive Noël!
Merci, Jean Castex. Une tribune appelle à stopper Amazon avant qu'il ne soit trop tard. Signée par une centaine d'ONG, de syndicalistes, d'élus. Elle appelle donc à stopper l'expansion du géant du commerce en ligne. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Mme Julie. Bonjour Monsieur Béliard, Cabrol et Mohamed et consorts. Eh bien, bonjour. bonjour à tous. Écoutez, oui, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Amazon, nous le savons tous, est un géant. Hein, mais je l'ai dit, on ne peut pas en faire un bouc émissaire de ce géant. Ce qu'il faut faire, c'est accélérer de toute urgence la numérisation de nos commerces.
Bah oui, vous défendez la numérisation bec et ongle. Vous avez même annoncé une aide de 500 euros pour que les commerces puissent passer au digital. Mais quand même, franchement...
Mais quand même, franchement, 500 euros, ça me paraît largement suffisant pour pouvoir lutter contre Amazon. Hein, je vous rappelle qu'avant... qu'Amazon existe. Eh bien, Amazon n'existait pas.
Hein ? Ah oui, avant d'exister, il n'existait pas. Oui, d'accord.
Oui, ils sont partis de zéro. Et quand je dis de zéro, c'est de 0 euros, pas de 500. Chaque fromager, il faut que les gens se comparent. Il faut donner l'espoir aux gens. Chaque fromager, chaque fleuriste, chaque marchand de chaussures est un petit Amazon qui s'ignore.
Oui.
Je pense même qu'il faudra protéger Amazon à un moment, parce que contre tous ces petits concurrents qui seront beaucoup trop forts pour lui à un moment donné. Mais non, mais on marche sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Laissez-moi passer, la République, c'est moi. Celui qui a signé la tribune anti-Amazon, c'est moi.
Jean-Luc Mélenchon, c'est moi. Bonjour, c'est vrai que vous avez signé cette tribune. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de développer la numérisation des petits commerces pour lutter contre Amazon?
Qu'est-ce que j'en pense? Mais c'est complètement con. C'est comme si on essayait de lutter contre l'alcoolisme en faisant de la pub pour Evian, ça sert à rien. C'est comme si on essayait, de lutter contre Alzheimer en faisant des réductions sur le prix du poisson, hein, parce que le poisson, c'est bon pour la mémoire,
oui,
c'est des vraies conneries.
Hein,
il devra manger d'ailleurs plus souvent, Bruno Le Maire, ça lui a évité d'oublier qu'en France, on a eu des gilets jaunes pour moins que ça.
Méfie-toi,
Bruno Le Maire, méfie-moi.
Merci Jean-Luc Mélenchon. Allez, on va revenir sur l'ouverture du procès de Jonathan Daval avec Éric Dupond-Moretti. Bonjour Monsieur le ministre de la Justice.
Bonjour madame.
On rit déjà, nous. Hein.
À la cour. Regardez mes mains, madame. Regardez mes mains, elles disent tout de moi. Mes mains, je tremble, madame, oui, je tremble.
Mais pourquoi?
Parce que je suis en manque, madame.
Ah.
Un procès ultra-médiatique, une affaire qui passionne les Français. Un méchant, très méchant, mais c'était pour moi de toute évidence ce procès, madame.
Mais vous auriez pu défendre Jonathan Daval?
Mais allons, mais bien sûr, madame. Ah. Car qui? Je pose la question, qui, madame la présidente? Messieurs de la cour, mesdames et messieurs les jurés, qui pendant le premier confinement, n'a pas eu envie de tuer une joggeuse. Ou même un jogger, d'ailleurs. Ces gens qui sortaient à 19h avec des leggings fluo. Oui, des leggings fluo. Et qui avaient acheté une montre connectée pour prendre la pulsation à la minute comme s'ils étaient des coureurs kényans. Alors que non, madame. C'était Martine de la Comta. Alors oui, on a eu envie de les tuer. Pourtant, on n'en est pas moins homme comme mon client, Jonathan Daval. Merci, madame la présidente. Oh putain, ça fait du bien, ça m'a manqué.
Très bientôt, monsieur le ministre. On a beaucoup aimé, bien apprécié. Emmanuel Macron a accusé des médias anglo-saxons de légitimer la violence dans leur traitement de l'islam radical en France. Ségolène Royal, bonjour.
Oui.
Alors vous, à l'inverse, vous avez déclaré « Je pense que certaines caricatures de Mahomet sont insultantes ». Et vous teniez à apporter votre soutien au monde arabe.
Mon soutien au monde arabe? Non, je tenais surtout à faire chier Emmanuel Macron. Selon un principe politique assez simple, jusqu'en 2022, tout ce qu'il va dire, je dirai l'inverse. Voilà,
c'est tout.
C'est tout?
Oui,
c'est simple.
Monsieur Bélard a compris. Il n'y a pas plus d'idées que ça là-dedans. Hein. Mais vous savez, sur un malentendu, ça peut procéder.
C'est honnête de votre part. Allez, merci, Ségolène Royal. Marine Le Pen a appelé à l'ouverture tous les lieux de culte, a-t-elle précisé. Marine Le Pen, c'est étrange que vous appeliez à la réouverture des mosquées, par exemple.
Salam alaikum, mes frères, salam, jolie métisse. Oui, il m'a taclé ce matin dans le titre, celui-ci. Salam, Jimmy Mohamed. Salam à tous mes amis musulmans opprimés par M. Macron et son gouvernement islamophobe. Inch'Allah que ça cesse en 2022.
Mais enfin, pourquoi ce soutien au monde arabe?
Mais pour faire chier Emmanuel Macron.
Ah bon.
Selon un principe politique assez simple, jusqu'en 2022, tout ce qu'il va dire, je dirai l'inverse. Voilà. Il veut fermer les mosquées, eh bien, je veux qu'on les ouvre. Il n'y a pas plus d'idées que ça. Mais c'est vrai que sur un malentendu, ça peut passer.
C'est assez simple, ce principe. Bravo à Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse que vous retrouvez sur Europe1.fr. Saluons évidemment les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h57. Culture Média démarre de 9h à 11h avec...
Oui.
Pardon, changement de ton.
Ouais,
évidemment,
oui,
on se change de salle, deux ambiances. Philippe Vandel, Culture Média, bonjour mon cher
Exactement.
Philippe.
Exactement, bonjour Mathieu. Deux salles, deux ambiances, on parlait musique, mais d'abord, c'est pas joyeux. L'avenir de l'industrie musicale en danger, concerts annulés, magasins fermés, sorties d'albums repoussées. Quelle réponse ? Réponse justement avec un de ceux qui connaissent le mieux le sujet, Bertrand Burgala, chanteur, producteur, il est président du SNEP, autrement dit, l'organisation qui rassemble les maisons de disques. Et puis une enquête à la fois dure et bouleversante dans Pièce à conviction sur France 3, enquête sur la gestion du Covid dans les EHPAD, dont beaucoup de résidents, nous disent les intervenants, ont été sacrifiés. On sera avec la présentatrice de l'émission, la journaliste Virna Sacchi. Puis enfin, star de la musique électro, Petit Biscuit, vous le connaissez ?
Oui.
Extraordinaire, il a 21 ans, déjà 1,5 milliard d'écoutes avec ses titres. Il sera avec nous pour parler de son nouvel album qui s'appelle Parachute.
Et c'est Culture Média, la matinée qui continue jusqu'à 11h sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis depuis tôt ce matin. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.